Europe 1,
18h-20h,
le grand journal du soir.
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Et ravie de vous accompagner dans ce grand journal, l'actualité, la culture, le débat d'idées jusqu'à 20h sur Europe 1. Avec nos questionnements à la une, et si on allait plus vite dans la stratégie de déconfinement de l'école au lieu culturel? Certains épidémiologistes plaident pour un allègement de ces protocoles sanitaires. Nous entendrons dans un instant le docteur Martin Blachier. 18h40, on va en entendre parler justement de l'ouverture des cinémas le 22 juin prochain, des sorties par groupe social. Êtes-vous prêt à y retourner aussi, vous, dans les salles? Nathalie Karmitz des cinémas MK2 nous rejoint. 18h40, une chanson dans la tête en ce jour de fête des mères.
Si maman, si...
Les grands classiques revisités ce soir avec les anecdotes de Fabien Lecoeuvre, c'est à suivre sur Europe 1. 19h15, la débrouille à Paris entre les gouttes de pluie pour les restaurateurs qui n'ont parfois que quelques tables en terrasse. Une dizaine de grands chefs, notamment François Gagnère, notre invité, demande l'ouverture totale et au plus vite de tous les établissements. Et puis 19h30, le grand débrief de l'actu. Ce soir sur Europe 1, je reçois les députés Barbara Pompili, Nicolas Dupont-Aignan et le spécialiste en communication politique Philippe Moreau-Chevrolet. C'est une partie de ce qui vous attend jusqu'à 20h. Ce soir, voici d'abord le journal de 18h. Bonsoir François Claus.
Bonsoir Wendy, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
18h, bonne fin de journée avec Europe 1.
On ne va avoir plus que l'école à appliquer des règles très contraignantes. Et si on décide de les assouplir à certains moments, pourquoi ne pas le faire aussi dans la classe ?
Voilà qu'après le professeur Delfrécy ce matin dans le journal du dimanche, les syndicats plaident également ce soir pour une accélération du déconfinement dans les écoles.
À la une également, proposer un congé à ceux qui doivent s'occuper de parents malades, c'est la nouvelle proposition de Marlène Schiappa.
Le président du Parti Les Républicains sur Europe 1, au lendemain des manifestations contre les violences policières, monte au filet pour défendre la police nationale.
Des violences policières en France, c'est un mensonge. Ça n'existe pas.
Propos politiques, qu'en est-il en tout cas de la réalité de ces violences dans notre pays? On fera le point ce soir avec Chloé Triomphe, notamment du service police-justice.
Et puis l'actualité Wendy de ce dimanche, c'est aussi un appel. Allez donner votre sang.
Les besoins produits sanguins sont remontés à un niveau absolument normal et notre collecte ne suit pas, donc on perd des milliers de produits toutes les semaines.
Vous êtes à l'écoute du Grand Journal d'Europe 1. Nous sommes en chambre jusqu'à 20h. Merci de votre fidélité.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Laissez les gens vivre, c'est l'appel étonnant lancé par le professeur Delfrécy ce matin dans le journal du dimanche. Le président du comité scientifique, celui-là même qui dictait il y a encore quelques semaines les règles strictes du confinement en France, plaide désormais pour une accélération du déconfinement, notamment pour les règles sanitaires dans les écoles, Théo Manval.
Oui, mais attention uniquement pour le temps passé. En dehors des classes, repas, récréation et sport, les distances barrières resteraient maintenues dans les salles. Alors pourquoi ce possible assouplissement? Jean-François Delfrécy explique que depuis avril, moment où le protocole sanitaire pour l'école a été élaboré, les connaissances sur le virus ont évolué. On sait maintenant que les enfants sont moins porteurs qu'on ne le pensait, que ce sont le plus souvent les adultes qui les contaminent que l'inverse. Les enseignants soutiennent, vous l'avez dit, cette idée au vu de la réouverture des parcs, des commerce depuis mardi. Françette Popineau est secrétaire générale du syndicat SNUIPP.
Ça va devenir très compliqué parce qu'on ne va avoir finalement plus que l'école à appliquer des règles très contraignantes. Et si on décide de les assouplir à certains moments lorsque les enfants sont regroupés, on peut s'interroger sur le fait de pourquoi ne pas le faire aussi dans la classe.
Aller encore plus loin, ce n'est pas encore la ligne du conseil scientifique, mais l'idée n'effraie pas non plus les parents d'élèves. Écoutez ce qu'en dit Rodrigo Arenas, le président de la FCPE.
Ce qui est sûr, c'est que le protocole actuel ne permet pas d'accueillir tous les enfants. Et nous, ce que nous réclamons, c'est que tous les enfants soient accueillis. Donc maintenant, c'est au gouvernement de proposer quelles sont les mesures qui vont être prises pour organiser l'accueil des enfants d'ici jusqu'au mois de juillet.
Voilà, on verra si l'exécutif donne suite à cette proposition d'assouplissement dans les jours qui viennent. À défaut, le conseil scientifique y travaille surtout pour la rentrée du mois de septembre.
Merci Théo Manval. Amende plus chère si on abandonne ou jette son masque de protection dans la rue, tout comme d'ailleurs son mégot de cigarette. Infraction désormais passible non plus de 68 mais de 135 euros.
À la une encore, et alors que 23 000 personnes, selon la police, ont défilé partout en France hier pour dénoncer les violences policières, eh bien le président des Républicains, Christian Jacob, qui était ce matin l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, a lancé un vibrant plaidoyer pour défendre la police nationale.
Des violences policières en France, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Alors, on a vu des violences de manifestants, mais jamais de violences policières en France. La police, elle rassure. Elle ne fait pas peur, elle rassure. Et moi, je voudrais apporter si tout mon soutien à nos forces de police, à nos forces de sécurité, à nos gendarmes. On les a vus sur tous les fronts, la lutte contre le terrorisme, au moment des mouvements sociaux, au moment du Covid, où on les a envoyés en première ligne sans protection. Et ce qui m'a peut-être encore le plus choqué, c'est face à ces insultes à l'égard de notre police, le silence assourdissant du président de la République et du Premier ministre. Ils étaient où, nos deux têtes de l'exécutif? Où est-ce qu'ils étaient? Au moment où la police nationale est humiliée et insultée de cette manière, on n'entend rien.
Christian Jacob, le président des Républicains, vient de nous dire, Chloé Triomphe, que les violences policières et le racisme dans la police, ça n'existe pas. Propos peut-être un peu excessif, Chloé.
Écoutez, c'est un langage très politique, en tout cas, dans le sens où que ce soit le ministre de l'Intérieur ou l'IGPN, Inspection Générale de la Police Nationale, chargée des enquêtes sur les faits imputés aux policiers, eh bien tous réfutent le terme même de violence policière. Ils expliquent que la police ne crée pas de violence par nature et qu'elle est habilitée à en faire usage, dans un certain cadre, avec certaines règles. Et c'est là, en réalité, que le débat se pose. L'usage de cette violence est-il légitime, proportionné ou pas? Et quand il y a un doute, c'est à ce moment-là que l'IGPN est saisi, qu'une enquête judiciaire est ouverte. Le dispositif existe, on ne connaît pas encore les chiffres de l'an dernier, mais on sait qu'ils seront élevés avec les épisodes des Gilets jaunes. Mais pour 2018, par exemple, eh bien, on comptait 612 enquêtes judiciaires sur des violences reprochées à des policiers. Quand les charges sont suffisantes, cela se termine au tribunal, comme ce sera le cas par exemple le 26 juin prochain au tribunal de Bayonne, où un policier sera jugé pour violence volontaire. Il s'agissait d'un tir de flashball dans le visage d'une étudiante de 19 ans lors d'une manifestation à Biarritz en décembre 2018.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Il est 18h06, la suite du journal sur Europe 1. François Clos, Wendy Bouchard.
Prendre du temps, François, pour venir en aide à ses parents lorsqu'ils sont malades. Et même prendre un congé légal dans cet objectif. Quelques mois après l'émotion suscitée par les débats autour des congés pour perte d'un enfant, eh bien c'est ce que propose la secrétaire d'État Marlène Schiappa dans une interview accordée au journal Le Parisien ce matin, Virginie Salmen.
Oui, Marlène Schiappa propose des mesures inédites qui ne sont pour l'instant que ses propres pistes de réflexion. La secrétaire d'État, qui se dit prête pour un ministère élargi à la famille, propose d'allonger le congé pour les jeunes pères de 18 jours à 1 mois. Et puis elle suggère la création de deux nouveaux congés familiaux. L'un pour permettre aux grands-parents qui travaillent encore de prendre un peu de temps pour s'occuper ponctuellement de leurs petits-enfants. Et puis un congé parent malade, court, d'une durée de 3 jours, pour aider par exemple son père ou sa mère dans son entrée en EHPAD après une fracture du col du fémur ou une infection par un virus. Claudie Culac, présidente de la Compagnie des aidants, émet quelques réserves.
Nous, on est ravis si Marlène Schiappa s'intéresse à ce sujet-là, évidemment. On rappelle juste au gouvernement que l'année dernière, le premier ministre a lancé son plan Agir pour les aidants, qui normalement doit être mis en application à partir d'octobre 2020, dans lequel il est prévu un congé de proche aidant indemnisé 3 mois durant votre carrière professionnelle et renouvelable une fois. Ok, c'est peu, mais c'est déjà un début. Donc, allons-y! C'est bon, super.
Donc en substance, pour les familles, avant d'imaginer de nouveaux congés, commençons par mettre en place ceux qui sont dans les tuyaux.
Merci Virginie Salmen du service Société d'Europe 1. Et on va terminer ce journal, Wendy, par un appel qu'il faut relayer, donner votre sang. Oui, l'établissement français, en cette sortie de confinement, est en manque. C'est ce qu'a formulé le docteur François Charpentier, son porte-parole, au micro de Sophie Echen.
Avec les suites de la crise du Covid-19, on a perdu des pans entiers de notre territoire de collecte. Le milieu de l'enseignement, les lycées professionnels, les facultés, les grandes écoles et le milieu professionnel, les entreprises et les administrations sont des endroits où on collecte régulièrement. La collecte en entreprise, c'est 30% des prélèvements qui sont faits en Île-de-France. C'est considérable. Or, on ne peut plus collecter dans ces secteurs-là pour des questions de mesures barrières. Et c'est un phénomène qui va être durable. C'est ça, en fait, aujourd'hui, qui nous est en difficulté, paradoxalement plus en difficulté dans le poste post-confinement qu'on ne l'a été dans le confinement, parce que les besoins en produits sanguins avaient baissé de façon à peu près proportionnelle à notre collecte. Par contre, là, les besoins en produits sanguins sont remontés à un niveau absolument normal et notre collecte ne suit pas, donc on perd des milliers de produits toutes les semaines. C'est un effort permanent. Pour les gens qui nous entendent aujourd'hui et qui ont donné il n'y a pas très très longtemps, qui reviennent au mois de septembre. Pour ceux qui ne peuvent pas tout de suite et qui pourront dans 15 jours, qui viennent dans 15 jours. Réellement, on en a besoin.
Le docteur François Charpentier, le porte-parole de l'établissement français du sang, qui était interrogé, Wendy, par Sophie Echen.
C'était le journal de François Claus sur Europe 1. François, qu'on retrouvera un petit peu avant 20h pour la conclusion de cette semaine et votre humeur du moment. François Claus, dans les temps changent.
À tout à l'heure.
Voici Lionel Rosso pour le sommaire d'Europe 1 Sport. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Wendy. Parmi nos nombreux invités ce soir, Luis Fernandez, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain notamment, qui souhaite qu'une liste se présente face à Noël Le Graët pour la prochaine élection à la présidence de la Fédération française de football, car il trouve que pendant la crise sanitaire, le monde du foot, le foot français n'a pas été à la hauteur et surtout les footballeurs n'ont pas été consultés, ils n'ont pas suffisamment la parole. Et donc grâce à cette liste, avec des champions du monde 98 et des champions d'Europe 84, il souhaite que les footballeurs se fassent entendre.
Parfait, c'est à suivre à partir de 20h sur Europe 1. Merci Lionel.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à ArcadeB, produit de fabrication française. ArcadeB vous présente la météo.
Et au menu de ce lundi, Valérie Darmon de la pluie. Beaucoup de nuages encore dans notre ciel, Valérie.
Tout à fait, c'est bien simple. C'est seulement près de la Méditerranée que le soleil s'imposera au prix d'un mistral et d'une tramontane qui souffle fortement jusqu'à 80 km/h en rafale. Partout ailleurs, c'est encore gris. Des Hauts-de-France au Grand Est, jusqu'en Auvergne, jusqu'en Rhône-Alpes, en passant par la région parisienne, le ciel restera menaçant avec des averses plus marquées près des frontières. De la Normandie à la Bretagne, aux Charentes, si les éclaircies s'imposent en bord de mer, le ciel est plus variable dans les terres, avec toujours ce risque d'averses. Et puis du sud de l'Aquitaine et du Pays Basque aux Pyrénées, la journée se déroule sous de fréquentes averses et même de la neige au-dessus de 2400 mètres en montagne. Il fait frais quasi partout. Les maximales oscilleront entre 15 à Rodez et 24 à Marseille. À Paris, il ne fera que 19. 20 degrés annoncés à Metz, à Troyes et Carcassonne, 21 à Strasbourg et à La Roche-sur-Yon, à Lyon et Bordeaux, 22 degrés.
Merci Valérie Darmon et on refait un point météo à 18h30 sur Europe 1. Faut-il déconfiner plus vite? Telle est la question, Wendy.
Oui, le gouvernement hésite aujourd'hui face aux appels des parents d'élèves. On les entendait, des entrepreneurs, des restaurateurs notamment. Notre invité est épidémiologiste et il nous répond dans un instant.
Jusqu'à 20h, le grand journal du soir, c'est avec vous, Wendy Bouchard. Le coronavirus circule encore en France, mais l'épidémie est maîtrisée, disent les scientifiques.
Et c'est une information qui ajoute à l'empressement de certains secteurs à déconfiner plus vite. Nous pensons aux restaurateurs, au monde scolaire. Et on en parle avec vous, docteur Martin Blachier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous qui êtes médecin, épidémiologiste et dirigeant de Public Expertise, qui a modélisé notamment le Covid et qui est sollicité par plusieurs autorités. Est-ce qu'il faut aller plus vite sur le déconfinement ou cultiver encore la prudence, comme manifestement le soutien Matignon aujourd'hui?
Je pense qu'il y a deux situations. Il y a la situation des écoles, en particulier les écoles avec les enfants de moins de 15 ans. Là, je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir parce que c'est une réalité de santé particulière. Les enfants ne sont pas à risque et les enfants transmettent très très peu. Donc là, pour moi, il faut absolument, la première chose à faire, c'est d'alléger le dispositif sanitaire des écoles.
Y compris dans les classes ou en périscolaire, comme cela semble se profiler du côté du ministère de la Santé.
Pour moi, il n'y a pas de différence à voir entre les deux.
D'accord.
Il y a une réalité qui est scientifique, qui est sanitaire, c'est que les enfants ne tombent pas malades, donc ce n'est pas une maladie de l'enfant, et que les enfants transmettent peu.
Donc on relâche la pression.
Donc on relâche la pression. Pour moi, la seule mesure à l'école qu'il faut avoir, c'est scanner tous les professeurs et ceux qui ont des problèmes de santé, qui effectivement, s'ils étaient infectés, ça risque de faire une maladie sévère. Cela, peut-être qu'il faut les laisser à l'écart du système jusqu'en septembre. Mais pour le reste, il faut largement simplifier ce protocole sanitaire.
Je reviens à cette formule qui a été reprise par François Claus dans le journal, qui est celle du président du Conseil scientifique, M. Delfraissier, dans une interview au JDD aujourd'hui. Laissons les gens vivre, mais en respectant les gestes barrières. Ce doit être ça maintenant le slogan d'aujourd'hui et de demain, Martin Blachier.
Je pense que ce qui est important, c'est de savoir où on va. Comme je disais à l'époque, il n'y a pas de raison d'attendre pour déconfiner. Je dis, il n'y a pas de raison d'attendre pour relâcher la pression. Sur les gens. En revanche, ce qu'il faut, c'est être prêt si jamais le virus recircule. Et être prêt, ça veut dire quoi? Ça veut être en capacité de protéger la population vulnérable. Et ça, le professeur Delfraissier le dit exactement dans le journal du dimanche. Et il dit, de toute façon, s'il y a une seconde vague, on ne reconfinera pas. Ce qu'on fera, c'est qu'on protégera la population vulnérable. Donc moi, je dis, ce qu'il faut maintenant, c'est lever les mesures trop contraignantes qui empêchent tout le monde de vivre.
C'est-à-dire les restaurants fermés, les salles
de culture qui sont encore fermés jusqu'à nouvel ordre.
Encore une fois, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent réouvrir. Par contre, il doit y avoir une ligne rouge à ne pas dépasser. Mmh. C'est tous les grands événements dans des lieux confinés. Ça, je pense que c'est trop dangereux. Ça peut relancer de manière trop brutale l'épidémie. Donc là-dessus, il faut être très prudent. Mais en dehors, j'ai envie de dire, des boîtes de nuit, des concerts, des salles de théâtre où il y aurait beaucoup de monde pendant très longtemps sans mesure barrière. En dehors de ça, je pense qu'on peut largement relâcher la pression. En revanche, ce qu'il faut, c'est avoir un plan. Ce qu'il faut, c'est avoir un plan si le virus recircule largement en France, y compris si on ne s'en rend pas compte. Parce qu'il y a aussi cette idée aujourd'hui, quand on écoute beaucoup de spécialistes, ils disent « oui, mais de toute façon, on voit ». Moi, je dis non, on ne voit pas. On n'a pas vu quand c'est arrivé en mars, donc je ne vois pas pourquoi on verrait mieux là.
On verrait la seconde vague
éventuellement. Il y a plein de chaînes d'asymptomatiques. Les gens qui vont se contaminer en premier, c'est les jeunes. Et les jeunes, quand on va avoir le nez qui coule, ils ne vont pas aller faire un test nasopharyngé forcément.
Parce qu'on va oublier pendant l'été.
Exactement. Et ça peut tout à fait repartir de manière assez silencieuse. Donc aussi, ça, c'est une fausse idée, l'idée qu'on contrôle tout, que maintenant on voit tout. Non, on peut ne pas voir. En revanche, si jamais le virus recircule, et par mesure de précaution également, il faut faire attention à cette population vulnérable. Donc c'était déjà vrai avant, ça reste vrai maintenant.
Plusieurs choses. D'abord, on relâche la pression à l'école, on fait attention aux grands rassemblements, plutôt en espace confiné. Quand vous voyez toutes les manifestations hier et plusieurs milliers de personnes sans véritablement de masque, dans une promiscuité pendant plusieurs heures. Là, vous êtes inquiet comme épidémiologiste, même si c'est à l'extérieur?
Je ne suis pas excessivement inquiet. Ce n'est pas vraiment ce genre d'événements qui ont été ciblés comme ayant vraiment lancé l'épidémie sur le début de la première vague. Mmh. Là où je suis... Enfin, ce n'est pas que je suis inquiet, c'est que je pense qu'il faut un discours de vérité, encore une fois, même pour les vacances d'été, sur la population vulnérable. Je pense que même si les restaurants réouvrent et s'il y a plein de lieux sociaux qui réouvrent, je dirais aux gens qui ont plus de 70 ans en particulier, ou les gens qui ont une maladie chronique, qui s'identifient comme à risque ou qui ont été voir leur médecin, qui leur ont fait comprendre qu'ils étaient à risque, de faire attention, de plutôt pas trop fréquenter ces lieux-là. On peut voir ses petits-enfants, on peut avoir des interactions comme ça ciblées, mais je pense que les grands endroits assez peuplés, ces gens-là doivent éviter de les fréquenter pendant l'été, après l'été.
Les fameuses mesures barrières, avec une doctrine qui n'est pas très claire en France, le port du masque n'est pas obligatoire dans l'espace public. Est-ce que vous voulez aussi un langage plus clair sur le sujet, docteur Martin Blacher? Est-ce qu'il faut un masque à partir du moment où on sort de chez soi aujourd'hui?
Non, le masque est très efficace. Ça, c'est une première chose qu'on peut dire. On ne le savait pas à l'époque. Aujourd'hui, on sait que c'est un des outils les plus efficaces pour lutter contre l'épidémie, puisqu'on sait exactement quel est de loin le mode de contamination le plus fréquent, c'est effectivement ces postillons. Et le masque est très efficace là-dessus. Donc quand vous ne pouvez pas respecter une distanciation physique, là, le masque, il est efficace. Donc encore une fois, c'est vraiment assez individuel la responsabilité. C'est quand on est dans une situation où on ne peut pas respecter les mesures de distance, et en particulier qu'on interaction avec des gens fragiles, là, il faut vraiment essayer de porter le masque. C'est très efficace. C'est dommage de se priver de cette mesure qui est très efficace. Après, porter son masque, on est dans sa voiture tout seul. Il y a plein de gens qui le font. Ça me paraît totalement inutile.
Pour le reste, on a la bonne méthode aujourd'hui. On s'est dépisté, on s'est testé, on s'est tracé, on s'est isolé, remonté les chaînes contact. Donc, on est dans un modèle de gestion sanitaire qui est conforme à ce que vous attendez, vous, comme épidémiologiste.
On a tout ce qu'on peut avoir. Mmh. Voilà ce qu'on peut dire. En revanche, se tester, isoler, tracer, c'est efficace, mais c'est efficace s'il n'y a pas une grande reprise. C'est-à-dire que si vous avez plein de phénomènes...
Là, pour les 150 clusters du moment, ça va.
Ça va, exactement. Oui. Si tout le monde lâche tout et qu'on recommence à organiser des rêves parties, non mais j'exagère,
bien sûr,
mais
des
grandes cérémonies religieuses où on prend aucune disposition, où on retourne en boîte de nuit tous ensemble, danser toute la nuit en se crachant dessus.
Forcément, il y a un risque.
Eh ben, on peut tester, tracer, isoler. Là, ça sera totalement insuffisant et ça risque de repartir. Et si à ce moment-là, ça repart, que les jeunes ne se font pas tester, qu'on ne s'en rend pas compte et qu'on fréquente des gens qui sont plus fragiles, à ce moment-là, on peut avoir une situation qui est problématique. C'est pour ça que vraiment la séparation entre la population qui peut vivre de manière plus normale et la population qui doit faire importante, pour moi, c'est ça le message principal.
Langage clair et précis, quel est le vôtre, docteur Martin Blacher, médecin épidémiologiste, spécialiste en santé publique et président de Public Health Expertise. Merci,
merci
de
vous.
Vos mots ce soir sur Europe 1. Merci beaucoup.
Les 18h20, Wendy Bouchard. Dans un instant, on va s'intéresser à ces médecins qui sont partis à l'étranger sauver des enfants.
Oui, avec la chaîne de l'espoir, je reçois ce soir le président de cette ONG formidable, Éric Chesson, sur Europe 1.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez le grand journal du soir. Bien ce soir, Wendy Bouchard, vous vouliez mettre à l'honneur le travail de la chaîne de l'espoir.
Une ONG qui depuis 25 ans, grâce à des médecins et des soignants d'exception, bénévoles, investis, œuvre pour soigner les enfants démunis en France ou à l'étranger, crée aussi sur place, de Bamako à Kaboul, des blocs opératoires et des unités de chirurgie cardio-pédiatrique. Bonsoir docteur Éric Chesson.
Bonsoir.
Vous présidez cette chaîne de l'espoir. Avez-vous d'abord pu continuer à assurer vos soins, vos opérations les plus urgentes en plein cœur de la pandémie ?
Mais je vais vous surprendre. Vous savez, dans cette période extrêmement difficile,
l'ensemble de nos stocks, les respirateurs, les masques, tout ce que nous avions début mars et mi-mars et une partie d'avril, nous sommes tournés vers la France.
Oui.
Et nous avons envoyé dans les EHPAD et des hôpitaux, surtout du Grand Est, ce matériel que nous avons, qui était normalement destiné à l'Afrique, à Kaboul et autres, comme vous le disiez. Alors, ça a été l'urgence. Et puis, ensuite, nous avons continué à opérer dans les pays, je dirais, là-bas, dans des conditions extrêmement difficiles, parce que... problème d'avion, problème de logistique. Mais vous savez, notre grande angoisse tout de suite, c'est les enfants qui meurent non pas du Covid, mais de ne pas être opérés.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il se passe un peu le même phénomène qu'en France. On a mis en avant, bien entendu, l'urgence, les patients atteints du virus, qui ont bloqué les réanimations, qui ont bloqué aussi les salles d'opération, les salles de réveil. Et nous avons été obligés d'attendre pour opérer tous ces enfants. Et on le sait, beaucoup d'enfants sont morts car ils n'ont pas pu être opérés. Et donc l'urgence est de reprendre. Et nous sommes en attente et on commence déjà au Vietnam. On repart sur le Cambodge.
Oui.
Le Mali, j'espère, dans très peu de temps. Rien qu'au Mali, nous avons 3000 enfants cardiaques en liste d'attente qui ont un besoin urgent d'être opéré.
Ouais, c'est terrible, vraiment l'urgence aussi de votre mission à vous, à la chaîne de l'espoir. 240 personnels médicaux, paramédicaux, bénévoles, missionnaires qui partent chaque année. Et puis, je voudrais qu'on revienne sur cette actualité incroyable, cette histoire que vous mettez en lumière aussi, docteur Éric Chesson, celle de la petite Amena. Amena, début mai, elle a 15 ans, 15 heures à peine, elle perd sa maman dans une attaque terroriste horrible sur une maternité à Kaboul. Le lieu est ciblé, les terroristes voulaient tuer des enfants et des mamans. Cette maternité est tenue par MSF et elle fait face. Et vous avez mis en place une chaîne de savoir incroyable pour sauver ce petit bout de chou de 15 heures traversé par une balle.
Oui, en effet. Je crois que dans cette situation, cette attente a une symbolique encore plus absolument abominable. On a atteint l'indicible, l'inécoutable.
Oui.
C'est-à-dire que des gens ont décidé d'attaquer, de faire un attentat suicide dans une maternité chez nos amis et confrères d'MSF à Kaboul.
Mmh.
Et ils ont mitraillé les femmes enceintes, les femmes venant d'accoucher, les bébés. Et la petite Amena, elle n'avait pas 15 heures, elle avait 5 heures. Elle venait d'accoucher et elle a pris une balle de Kalachnikov qui a sectionné son artère fémorale. Et donc, nous l'avons repéré à 3 reprises. C'était une opération qui a duré 12 heures au total pour sauver ce nouveau-né qui, en plus, avait perdu sa maman qui a été tuée dans le même attentat. Et donc, si vous voulez, la symbolique est absolument effrayante. Je ne sais pas au nom de qui, au nom de quoi, on peut commettre des actes aussi... la chaîne de l'espoir a pu sauver, je dirais, ce bébé. Les femmes afghanes se sont relayées pour l'allaiter.
Mmh.
Et la petite Amena, maintenant, va conserver sa jambe. Et
c'est cette lumière, cette histoire miraculeuse que vous retenez aussi et qu'on était heureux de partager sur l'antenne d'Europe 1 parce qu'elle traduit justement tout ce que vous faites au cœur de cette chaîne de l'espoir. Docteur Éric Chesson, merci ce soir et nous continuerons à parler de vos actions. Donnez encore à la chaîne de l'espoir parce que ces dons, vous savez vraiment à quoi ils sont dévolus. Merci beaucoup.
À suivre.
Merci.
Sur Europe 1, l'essentiel de l'info, la météo un peu fraîche et humide de Valérie Darmon et puis l'agenda de la semaine.
Culture de Naïma Bensheman avant notre invité Nathanaël Karmitz des cinémas MK2 qui nous parle de la réouverture des cinémas le 22 juin prochain. À tout de suite.
Vous écoutez le grand journal du soir sur Europe 1. Il est maintenant 18h30, Wendy Bouchard.
C'est l'heure du rappel de l'actualité. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Le président du conseil scientifique plaide pour des règles sanitaires moins strictes à l'école, notamment pour les repas, les récréations ou le sport. Jean-François Delfrécy estime qu'il faudrait alléger le protocole d'ici la fin juin. Étape importante et délicate à partir de demain, le démontage de l'échafaudage de Notre-Dame de Paris, déformé par la chaleur de l'incendie. Il est constitué de dizaines de milliers de pièces à plus de 40 mètres de haut. Aux États-Unis, après plus d'une semaine d'émeutes à la suite de la mort de George Floyd, la situation est désormais sous contrôle. C'est dans tous les cas ce qu'estime Donald Trump, qui ordonne le retrait de la garde nationale de Washington. Et puis jeter un masque par terre sur la voie publique coûtera bientôt très cher, 135 €. Idem pour un mégot de cigarette contre 68 € actuellement. Un projet de décret sera présenté en ce sens mi-juin.
Sophie Tousseau qu'on retrouve pour le journal de 19h sur Europe 1. Merci. Alors Valérie Darmon, ce n'est pas encore demain que les températures remontent. Elles ne sont pas encore dignes d'un mois de juin, Valérie.
Effectivement, et pas jusqu'à la mi-juin. Il faut attendre le retour d'un temps anticyclonique sur le pays pour que les températures remontent. Elles vont donc rester automnales ce lundi sous un ciel très nuageux. Le vent de nord-ouest va quand même se calmer et tourner progressivement au sud-ouest, apportant un petit peu d'air un petit peu plus doux. On gagnera environ 1 degré par jour et notre pays pourra retrouver les valeurs de saison de 20 à 25 degrés du nord au sud en deuxième partie de semaine prochaine. Ce qui ne veut pas du tout dire que le beau temps va revenir. Donc attendez-vous encore à des ondées plus ou moins orageuses un petit peu partout, sauf dans le sud-est ensoleillé, et ce pour l'ensemble de la semaine.
La météo de Valérie Darmon qui revient dans 40 minutes à la fin du journal de 19h sur Europe 1. Place à l'agenda culture, Wendy. Bonsoir Naïma Bencheman. Et merci au terme de cette 4e semaine de déconfinement de nous proposer toujours de la culture qui petit à petit se remet en marche. Ça commence avec une balade, Naïma.
Préparez votre pâte. Au château de Chambord, qui est un vrai château de contes de fées, la preuve, Jacques Demy a réalisé sa célèbre adaptation du conte de Peau d'Âne qu'on entend. Alors après 3 mois de fermeture, la réouverture du château vendredi dernier était très attendue par les visiteurs de la région et de toute la France qui de nouveau peuvent emprunter l'escalier à double révolution conçu par Léonard de Vinci. Mais attention, un seul sens de circulation est mis en place pour circuler sans se croiser et pour respecter les mesures de sécurité. Oui. En tout cas, c'est une vraie renaissance pour Chambord qui, durant la période de confinement, aura quand même perdu 50% de son chiffre d'affaires.
Voilà, Peau d'Âne, Catherine Deneuve à laquelle on pense, interprétée par cette Anne Germain. Je parle sous le contrôle de Fabien Lecoeuvre.
Absolument.
C'est bien ça, sa doublure voix. Naïma Bencheman nous propose de rire aussi un peu avec un humoriste qui a fait parler de lui ces derniers mois. C'est Alex Ramirez.
Pourtant, c'est l'âge aussi où on commence à se poser des questions, tu sais, sur l'avenir. Et moi, je le vois, j'ai des amis de mon âge qui viennent d'avoir des enfants. Et dans l'idée, c'est assez cool, en fait, parce qu'à chaque fois que je les vois en famille, avec leur petit bout de chou, ça me rappelle combien j'ai pas du tout envie d'être papa. Pas à cause des gosses, hein, non, quand je vois mes potes. Enfin, mes potes, ce qu'il en reste, hein. Tu sens la solennité dans leurs yeux, tu sais, parce que ça y est, ils ont donné la vie. Ça va, ils ont un fait extraordinaire, il était en rut, elle a mis bas, voilà.
Alors, il s'était fait connaître du grand public l'année dernière lors des 30 ans du Festival d'humour de Montreux, avec son spectacle sensiblement viril. Alors, Alex Ramirez croque les petits travers des trentenaires. Il ne se prend pas au sérieux, il s'assume dans toutes ses contradictions. Il est situé quelque part entre le ténébreux et le flamboyant, l'extraordinaire et le banal, le beauf et le précieux. Bref, il ne rentre pas dans les cases, ça s'entend et c'est super rafraîchissant.
Avant de pouvoir se rendre au cinéma le 22 juin prochain, et on en parle dans un instant avec mon invité, vous nous emmenez en balade à Montmartre, côté cinéma.
Elle avait 16 ans de jolis yeux rieurs. Le soir à Montmartre.
Alors, partez en...
Ça nous rajeunit pas, cette histoire.
Georgette Plana, non, ça nous rajeunit pas. Donc, partez en ciné-balade et parcourez les rues pentues de Montmartre pendant 2 heures avec la guide Juliette Dubois qui vous fera voir tous les écrins cachés de ce quartier historiquement prisé par les grands artistes et qui vous révélera une pléthore d'anecdotes sur les tournages qui ont marqué ce haut lieu de la culture parisienne.
Et il y en a. Et puis, le vendredi, on se quitte en musique, session de rattrapage pour écouter l'un des plus grands concerts du groupe Queen. It's a kind of magic.
Alors je vous propose un petit voyage dans les années 80, le 12 juillet 1986 plus exactement, et de vous refaire le live à Wembley, fameux stade dans la banlieue de Londres, un des lives du groupe Queen qui est resté comme l'un des plus électrisants dans les annales du rock. Certains fans iront carrément jusqu'à dire qu'ils ont senti le sol trembler cette nuit-là. Donc on entend, hein, comme vous l'avez dit Wendy, la foule qui chante en chœur avec Freddie Mercury, absolument déchaînée, qui parade sur les 50 mètres de scène, offrant un spectacle
sensationnel.
Et on réécoute ce titre, ce concert de Queen à Wembley. Merci beaucoup Naïma Benchemal. L'agenda, la culture que vous pouvez partager aussi sur europe1.fr. A tout de suite avec notre invité, Nathanaël Karmitz des cinémas MK2.
Il est 18h38, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1 et on va en entendre parler, Wendy Bouchard, la réouverture des cinémas le 22 juin prochain.
Absolument Marlène, le protocole sanitaire a été validé mercredi par le ministère de la Santé. 47 pages pour redessiner cette sortie et pour faire en sorte qu'elle reste un moment agréable. Bonsoir Nathanaël Karmitz.
Bonsoir.
Car c'est du plaisir quand même, de la culture, mais du plaisir que vous offrez, vous qui êtes le président du directoire du groupe MK2. C'est vraiment la philosophie de tous les acteurs engagés, trouver cet équilibre entre santé et culture pour que ça reste un moment agréable. Justement.
Oui, très clairement, avec un premier sujet qui est d'être rassurant sur le fait que la venue au cinéma n'est pas risquée, en tout cas pas plus que de prendre le train ou d'aller dans les boutiques. Donc à ce titre-là, ce protocole sanitaire est très détaillé, aussi bien pour les salariés que pour les spectateurs.
Oui.
Et du coup, il y a un parcours quasiment sans contact qui va être proposé au public et donc on assure une grande sécurité dans la venue dans les salles.
Alors on peut enlever son masque une fois qu'on s'assoit, on peut y aller entre amis, 10 maximum, un siège d'écart entre groupes sociaux, c'est comme ça que le document indique les choses. Ce processus sanitaire, ce dispositif est appelé à être révisé, il peut évoluer, il peut être allégé de votre point de vue, Nathanaël ?
Effectivement, le point principal pour l'instant, c'est que ce qui nous est indiqué, c'est qu'on va ouvrir à 50% des jauges. Donc, ça veut dire qu'une salle de 200 personnes va pouvoir accueillir 100 personnes. Il faudra laisser un siège d'écart.
Oui.
Il est indiqué aussi que ce protocole peut être revu toutes les semaines en fonction de la situation. Et évidemment, on espère, au même titre que tous les gens qui accueillent du public, que cette limitation à 50% va être levée le plus rapidement possible et en tout cas allégée le plus rapidement possible.
Et vous espérez d'abord économiquement. Une jauge à 50%, ce n'est pas tenable pour vous financièrement.
Très clairement, ce n'est pas tenable sur le temps. Et par ailleurs, on a un problème, c'est qu'on a une industrie complète à relancer. Et donc, c'est aussi des distributeurs, des producteurs et que les jauges à 50% n'incitent pas forcément les distributeurs à se dire on va sortir notre grand film le 14 juillet. Parce que je ne pourrais pas accueillir tous les spectateurs que le potentiel
Évidemment.
De mon film permet.
Oui.
Et donc, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais on a un besoin et de rouvrir le plus rapidement possible avec l'ensemble de nos jauges.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'on ira voir au cinéma à partir du 22 juin? Quels seront les films à l'affiche?
Alors, la semaine du 22 est un peu particulière. Déjà, elle commence un lundi,
oui.
Alors que le cinéma, c'est le mercredi normalement.
Oui.
D'abord, on reprend les films qui se sont arrêtés avec le confinement, donc De Gaulle, La Bonne Épouse par exemple.
Très bien.
Et un certain nombre de films qui vont sortir, plutôt des films indépendants. Je pense à Béni, qui bénéficie encore de beaucoup d'affichages en France en ce moment. Et assez rapidement, des nouveautés qui vont commencer à s'étaler. Par exemple, le film de François Ozon, justement, c'est daté sur la semaine du 14 juillet.
Oui.
On attend Tenet de Christopher Nolan, on attend Mulan. Donc, il devrait y avoir une belle offre assez diverse qui va commencer à venir cet été.
Est-ce que vous avez peur que pendant 3 mois, les accros de cinéma se soient équipés de home cinéma, se soient replongés plus avantage dans les séries, soient devenus addicts à cette forme de cinéma à la maison et plus au cinéma en salle? Parce que c'est une inquiétude, j'imagine.
En fait, pas spécialement. Déjà, il y a un attachement des Français au cinéma qui est grand. Les quelques sondages qui ont été faits dans la période disent que voilà, les deux loisirs qui manquent aux Français, c'était boire des coups en terrasse entre amis et aller au cinéma.
C'est un art à la française. Oui.
Et donc, on n'est pas inquiet de ça. Au contraire, on pense que les gens ont un peu marre de leur canapé, oui. La sortie entre amis, et rire
même
et pleurer
s'il y a
ensemble.
Une opération reconquête, on est dans quelque chose de nouveau, il faut repartir à la pêche quand même pour vous, très clairement.
Oui, en tout cas c'est une réouverture. Une réouverture c'est toujours plus compliqué que de fermer, mais cette reconquête, elle passe d'abord par rassurer sur le fait que le protocole sanitaire est en place et très, très sûr, et deuxièmement, on espère vite que ces jauges vont pouvoir remonter, parce qu'encore une fois, le plaisir de la salle du cinéma, c'est rire et pleurer ensemble, partager des émotions, et à ce titre-là, le cinéma fait partie de la vie des Français.
Mais avec MK2, vous ne négligez pas Netflix, par exemple, qui va diffuser une partie de votre catalogue, une cinquantaine de films. Vous êtes exploitant de salle, Nathanaël Karmitz, mais aussi producteur. À ce titre-là, l'annulation du Festival de Cannes, c'est un coup dur pour la profession, pour votre production?
Oui, c'est forcément un coup dur. C'est un coup dur pour la France. C'est un événement qui fait rayonner la France et la culture française dans le monde. En même temps, le fait de mettre des labels permet quand même une espèce de continuité, en tout cas renforce cette idée de Cannes sélectionneur et donc de guide pour le public, pour les autres festivals. Donc Cannes reste présent et on prépare la grande fête de l'année prochaine.
Et vous vous développez de nouveau le cinéma prévu sur les Champs-Élysées pour Paris 2024, nouveau MK2, c'est toujours dans les tuyaux.
C'est toujours dans les tuyaux pour 2024 et ouais. D'ici là, il y aura aussi au MK2 Nation un premier hôtel qu'on développe qui ouvrira au mois de décembre, un
avec
hôtel cinéma.
Écran géant dans les chambres, c'est ça?
Non, ça non. C'est encore secret, il y a plein de spéculations,
mais ce qui est
sûr c'est que ça sera des choses très, très inédites.
Et ben voilà, on innove avec vous, notamment Nathanaël Carmis, président du directeur du groupe MK2, allez au cinéma, ça a toujours été votre slogan, ça le reste plus que toujours à partir du 22 juin et peut-être avant de manière allégée. Merci Nathanaël.
Merci
beaucoup.
Europe 1, 18h43, le Conseil national des professions de l'automobile, organisation professionnelle au service des automobilistes, vous présente Tout roule.
Voici Tout roule, le magazine auto d'Europe 1, chaque dimanche soir avec vous. Bonsoir Pierre de Villeneuve.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Gros maelstrom autour de l'électrique. En est-on capable et faut-il tout électrifier? Les news de la semaine bien sûr, et puis l'essai, la nouvelle Hyundai i10, une des dernières micro-citadines.
Le dossier de la semaine est cette question, faut-il tout électrifier, Pierre?
Ben oui, quand on voit qu'on se pose la question de savoir s'il faut électrifier la toute dernière Alpine A110, qui est un petit bolide, un petit joyau national français avec un moteur qui marche super bien. Et là, on nous dit, ben voilà, on est dans une nouvelle ère. On dit aux consommateurs qu'il faut de plus en plus acheter des voitures propres, des voitures vertes, des voitures et donc électriques. Bruno Le Maire mise sur cette technologie en France. Il veut, avec Emmanuel Macron, faire de la France le pays où la voiture électrique est un fleuron. L'Airbus des batteries est en cours. Renault va sans doute le rejoindre comme les autres constructeurs. Mais est-ce qu'on est de là capable de devenir comme Tesla? Je vous rappelle que Tesla, rien n'était fait avant. C'est une entreprise toute nouvelle. Tandis qu'en France, on a des entreprises comme Renault, comme Peugeot, où on produit 95% de voitures thermiques et seulement 5% de voitures électriques. Une voiture électrique, il faut 7 ouvriers pour la faire. Il faut 20 ouvriers pour faire une voiture thermique. Est-ce que ça veut dire qu'on va envoyer tout le monde au chômage, qu'on va faire des reconversions qui, comme vous le savez, ne marchent jamais, puisqu'on a vu ce qui s'est passé à Florange ou dans d'autres bassins d'emploi? Il y a aussi toute une filière qui risque d'être touchée. On en revient, Wendy, à ce qui était au début des années 1900, le cheval qui prenait fin et la voiture avec le moteur à explosion qui faisait ses débuts. Voilà, on rebat les cartes. On savait que ça allait se passer, mais on ne pensait pas que ça arrivait aussi vite.
En tout cas, je retiens vos chiffres très intéressants. 7 ouvriers pour une électrique, 20 ouvriers pour une voiture classique à essence. Voilà, c'est un monde en reconversion dont on suivra aussi les pas avec vous dans cette chronique Tout roule, Pierre de Villeneuve. On passe avec vous aux news de la semaine dans Tout roule.
Avec une très très belle nouveauté chez BMW, la série 4 coupée de l'année 2020. Elle dévoile une ligne ultra sportive et puis surtout un clin d'œil au passé de la marque avec ce double haricot sur la calandre tellement grand qu'on dirait une BMW 328 des années 30. Bonne nouvelle pour la Formule 1, les Grands Prix reprennent en Europe dès le 5 juillet. La crise du Covid n'a finalement pas été trop importante pour cette discipline. 8 Grands Prix sont déjà programmés.
Et puis pour terminer, la voiture que vous avez essayée cette semaine, c'est la nouvelle Hyundai i10.
Exactement, et c'est une des dernières citadines. Vous savez, le concept de la série A, c'est-à-dire de la première catégorie chez les loueurs, la moins chère, ça c'est en train de disparaître. Là encore, parce qu'on électrifie les voitures, on se rend compte que ce n'est pas rentable de produire ces petites voitures-là. Et bien la Hyundai i10, elle fait tout le contraire. Elle se propose en une nouvelle mouture. Elle est très économique, très urbaine. Urbaine parce qu'elle est petite et étroite. On se faufile, on se gare partout. Urbaine aussi car c'est un tout petit moteur, 3 cylindres, 67 chevaux, qui n'est pas très agréable. On lui préférait d'ailleurs justement un moteur électrique et à tout le moins une boîte automatique. Côté finition, il y a du bon et du moins bon. Les plastiques ne sont pas très agréables. Mais pour tenir le budget des 12 000 euros, il a fallu faire des choix. Alors on a toutes les technologies d'assistance à la conduite, comme la caméra de recul, le démarrage en côte, le CarPlay. Il y a beaucoup d'équipements avec les équipements de sécurité aussi. Et parfois, il y a des petits truc qui marche pas très bien. Le start and stop marche, mais uniquement si on enlève son pied de la pédale de frein. Alors, on est un petit peu déboussolé. Il n'y a pas de navigation. Il faut compter que sur le CarPlay. En tout cas, voilà, c'est une petite voiture pour ceux qui veulent une petite voiture, vraiment, pour se faufiler. Et en même temps, on peut faire un Paris-Marseille à 5 petites personnes, 4 personnes de taille grande. Et bien là, on peut faire 1000 km sans problème avec une voiture très économique.
Votre essai de la semaine dans Tout roule, Pierre de Villeneuve, qu'on retrouve à la présentation d'Europe Midi demain et dans cette chronique dimanche dans le Grand Journal
du soir. Merci Pierre.
Merci Wendy.
Tout roule, c'est avec le CNPA, Conseil National des Professions de l'Automobile. Ce sont 140 000 entreprises et 500 000 professionnels au service des automobilistes et de votre mobilité au quotidien, partout en France. Un petit clin d'œil aux mamans dans un instant.
Eh oui, une chanson dans la tête. Fabien Lecoeuvre n'a pas oublié cette fête des mères. Bonsoir Fabien.
Bonsoir Wendy.
Et on va revisiter les grands classiques avec vous.
Ah, et il y a des belles surprises.
Hey, toi, maman, je te dis bonjour, alléluia.
À tout de suite sur Europe 1.
Alléluia, maman.
Le grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard. Il est maintenant 18h50. C'est l'heure d'une chanson dans la tête, votre rendez-vous culturel et musical.
Il est là, Fabien Lecoeuvre, notre spécialiste de la chanson française, auteur de livres à succès de Michel Sardou à Renaud. Et l'actu du jour vous inspire, Fabien?
Absolument, Wendy. Et très bonne fête à vous, ainsi qu'à toutes les mamans qui nous écoutent.
Oui, maman chérie.
Puisqu'aujourd'hui, bien sûr, ça n'a pas échappé à votre fille, c'est la fête des mères. Voilà.
Alors, je vais elle l'a dit sous contrainte, je le précise.
Ah, quand même.
Chérie.
Alors, je vais alors vous parler de toutes les grandes chansons qui ont été inspirées par les mamans, et pour les mamans, bien sûr. Et il y en a beaucoup dans toutes les générations. Depuis Les Roses Blanches de Bert Silva, ça c'était en 1926, jusqu'à la chanson Maman de Louane en 2015, il existe énormément de chansons consacrées aux mamans. Souvenez-vous, Wendy.
Si maman, si, si maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, si maman, si, mais mon avenir reste gris.
Magnifique chanson de France Gall à la une.
Eh oui, écrite et composée par Michel Berger et qui était sortie un 27 avril 1977 sur l'album Dancing Disco. Dont cette chanson était le deuxième extrait, en tout cas juste après la chanson Musique que vous connaissez aussi de France Gall. Alors ce titre reste l'un des plus grands succès de France Gall. Cette chanson raconte tout simplement l'histoire d'une jeune femme un peu déçue par la vie et qui se confie à sa maman.
Évidemment. Autre classique popularisé par Luis Mariano, par Tino Rossi et repris régulièrement ici par Vincent Niclot. Écoutez.
Maman, c'est toi la plus belle du monde et ma joie profonde, à mon bras.
Grand succès italien.
Eh oui, bien avant donc, on va dire, 1900, la version de Vincent Niclot qu'on entend, il y avait Luis Mariano et Tino Rossi en 1958 qui avaient fait l'adaptation d'un succès italien de Marino Marini, sorti un an auparavant. Et c'est l'auteur marseillais Fernand Bonifay, celui-là même qui écrira deux ans après en 1960 « Souvenir, souvenir » pour Johnny Hallyday, qui l'a traduite en français, et de très nombreux artistes comme Dalida, Michel Thor, Karen Cheryl, Henri Salvador et bien d'autres, Vincent Niclot en 2013, sur un album hommage à Mariano à l'époque.
Comme ce titre encore un grand classique de 1926, réinterprété par Céline Dion, qui rend hommage aux mamans. C'est bien Céline Dion qu'on entend, mais c'est un document exceptionnel.
C'est rare, en tout cas, cette chanson réalisée, popularisée donc par Bert Silva, puis par Lucienne Delisle, fait partie de ces chansons qui sont comme des petits films. Quand on les entend, on voit la scène tragique qui est racontée. Et le 9 novembre 1981, sur son tout premier album intitulé « La voix du bon Dieu », produit par René Angélil, qui avait hypothéqué, je le rappelle, sa maison pour le financer, Céline Dion avait enregistré cette chanson qui était la chanson préférée de sa maman Thérèse Dion, qui était née en mars 1927 et qui nous a quittés le 17 janvier dernier.
Et donc, c'est cette chanson de 1981 qu'on vient d'entendre.
Exactement.
Hein.
Et on avait oublié qu'elle avait enregistré justement cette version.
Avec cette petite voix fragile, très réaliste. Hein,
voilà. Et puis Wendy, si ça vous dit quelque chose, un homme qui chanta sa maman, ou plutôt ment.
Sa maman. Ah, monsieur Eddy.
Maman, je viens de fumer ma toute première week-end sur les fortifs où t'aimes pas que je traîne. Je me serais tué plutôt que de refuser.
Ah là là, grand succès de 1987. Hein.
Absolument, et qui figurait sur le 26e album d'Eddie Mitchell. Le chanteur a écrit ce titre après la disparition de sa mère Lucienne, qui était employée au Crédit Lyonnais. Dans l'histoire d'Eddie, on connaît bien cette histoire. Alors il suit en fait la trace de son idole Elvis Presley, qui lui aussi en 1969 avait enregistré une chanson dédiée à sa mère morte d'une crise cardiaque. Un titre qui, pour les deux rockers, est un témoignage fort de l'amour qu'ils portaient à leur maman.
Plus proche de nous, Fabien, on se souvient de cette chanson de 2015.
Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman.
C'est la petite Louane.
Et oui, sur son tout premier album, Chambre 12, vendu à plus d'un million d'exemplaires, je le rappelle, Louane consacre une chanson à sa maman, Isabelle, qui l'avait inscrite à l'émission The Voice, et oui, et qui a été emportée malheureusement par un cancer en 2014. Alors Louane, qui est d'ailleurs devenue maman il y a quelques semaines, et qui a baptisé sa fille Isabelle, en hommage justement à cette maman partie trop tôt, et qui lui disait toujours « si tu as envie de faire les choses, fais-les ». Et quoi qu'il arrive, que tu arrives ou pas, au moins tu auras la satisfaction d'avoir fait les choses à fond. Elle me l'avait raconté lors d'un dîner qu'on avait eu un jour sur un plateau de télévision avec les années Bonheur, entre autres.
Ouais, c'est une génération voilà, qui a beaucoup de tendresse aussi à donner, comme le garçon qu'on va entendre maintenant, même année, 2015. Et lui aussi rend un bel hommage à sa maman, avec ce titre, Kenji Girac.
Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde, elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle.
Elle magnifique cette chanson.
Chef-d'œuvre dans cette belle chanson justement sortie en octobre 2015 sur le second album studio de Kenji Girac, vendu à un million d'exemplaires. Il évoque sa mère, Carmen, et raconte les liens forts qui unissent une mère et son fils. Alors Kenji a souvent expliqué dans les interviews toute l'affection, vous savez, qu'il a pour sa mère, au point qu'il a d'ailleurs utilisé, je le rappelle, son nom de jeune fille, Girac, comme nom de scène. Ça, c'est un bel hommage.
Allez, encore un peu de Kenji.
Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde, elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman, enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes.
Les yeux de la maman, merci pour ces chansons, grands classiques, petites pépites en tout cas, Fabien Lecoeur.
Oui, c'est important de rappeler que les mamans ont toujours été une source d'inspiration pour les grands, grands artistes, auteurs et compositeurs.
Oui, absolument, et pas que, hein, pour nos vies quotidiennes. Merci infiniment, cher ami, cher Fabien, qu'on retrouve samedi, dimanche prochain à 18h50. Vous restez avec nous, le Grand Journal revient. Marlène,
oui, avec le journal de 19h dans un instant.
On est là.
18h20, c'est le grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard.
Et voici toute l'info, le journal présenté par Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Il est 19h.
Depuis l'incendie, c'est tous les jours que j'attends avec impatience cette dernière phase de sécurisation de la cathédrale.
C'est un chantier extrêmement délicat qui débute demain, la dernière étape du démontage de l'échafaudage de la flèche de Notre-Dame de Paris, une structure totalement déformée par la chaleur de l'incendie.
Beaucoup de restaurateurs parisiens réticents à ouvrir leur établissement, pas assez de monde, le manque à gagner serait important.
60% de notre clientèle, c'est des touristes. Pour l'instant, il n'y a pas, donc ça ne va même pas le coup de réouvrir, on ne sait pas la perte qu'on va avoir.
À la résolution d'un cold case, 19 ans après les faits, un meurtrier a pu être confondu par son ADN sur un mégot de cigarette. Nous en reparlerons avec le général Lecouvre qui supervise les enquêtes de la gendarmerie nationale.
Oui, et puis les professionnels du tourisme en Espagne ont les yeux rivés vers le mois de juillet, la réouverture des frontières. Ils attendent les vacanciers avec impatience.
Bien sûr, on est très contents, C'est des très bonnes nouvelles. On va sauver la saison. On attend beaucoup de clients français.
On écoute Le Monde changer jusqu'à 20h. Merci de votre fidélité.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et donc à partir de demain, Notre-Dame de Paris va être petit à petit débarrassée du gigantesque amas de ferraille qui la défigure. L'échafaudage avait été monté pour les travaux de restauration, bien sûr, avant l'incendie.
Il a résisté à la chute de la flèche lors du terrible feu qui a ravagé la cathédrale l'année dernière, mais s'est totalement déformé sous l'extrême chaleur. La structure, qui pèse 200 tonnes et qui est située à plus de 40 mètres de haut, va commencer à être démontée. Un travail colossal sur un chantier titanesque, Marion Gauthier.
Oui, ce sont 40 000 pièces de métal fondues, soudées entre elles, que les cordistes vont devoir découper. Ces ouvriers spécialisés dans les travaux difficiles seront suspendus au-dessus de la voûte, au cœur de l'échafaudage. Échafaudage calciné, scie à la main pour détacher des tubes métalliques qui seront remontés ensuite par la grue de 80 mètres. Opération périlleuse, les cordistes ne pourront pas travailler avec trop de vent, par exemple, pour ne pas risquer de venir heurter la structure. Mais opération indispensable pour envisager la suite, souligne Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame.
Il y a eu les 2 mois de l'affaire du plomb, les 2 mois de pandémie. Et depuis l'incendie, c'est tous les jours que j'attends avec impatience cette dernière phase de sécurisation de la cathédrale. Quand je verrai plus cette masse noir qui était à la hauteur de la flèche, je respirerai.
Mais il va falloir encore un peu retenir son souffle. Le démontage de l'échafaudage devrait prendre tout l'été. Viendra ensuite la phase d'estimation des dégâts. Sous ces tonnes de métal, la voûte éventrée et des pierres probablement fragilisées par les flammes et l'eau des pompiers. Après seulement pourra commencer la restauration.
Merci Marion Gauthier.
C'est le cri du cœur du président du Conseil scientifique. Laissons les gens vivre, Sophie.
Dans les colonnes du JDD, Jean-François Delfraissy plaide pour des règles sanitaires moins strictes dans les écoles dès la fin du mois de juin. Il se prononce notamment pour un allègement du protocole, pour le temps passé en dehors des classes, c'est-à-dire les repas, les récréations et le sport, tout en gardant bien sûr les distances et les gestes barrières. Selon lui, la connaissance sur le Covid-19 a progressé. On sait désormais que les enfants sont moins porteurs du virus que ce que l'on pense et que ce sont essentiellement les adultes qui les contaminent et non l'inverse. Alors, alléger les contraintes avant la fin de l'année scolaire serait-il une bonne chose? Oui, répond Laurent Hoffmann, président du Syndicat national des écoles.
Vu ce qui est en place, on a pratiquement un mois de recul. Honnêtement, on pourrait alléger parce que le fonctionnement atteint ses limites. Les familles sont de plus en plus volontaires pour remettre leur enfant parce qu'on voit bien que le gros de la crise est derrière. Donc, on arrive à saturation en fait un petit peu des effectifs et du système mis en place. Alors, simplifier les choses au niveau de l'extérieur, des récréations, de la restauration scolaire, c'est une bonne chose. Mais moi, j'irais même au-delà. À mon sens, il faudrait l'alléger dans tous les sens du terme, y compris en temps de classe, c'est-à-dire peut-être retourner vraiment à la normale le plus possible. De toute façon, ce qu'on remarque, c'est que les enfants, dès qu'ils sont à l'extérieur de l'école, ils ont repris des habitudes de se côtoyer sans forcément maintenir la distanciation qui est mise en place à l'école. Les familles reprennent leur vie un peu habituelle, se côtoient à l'extérieur et se voient le soir. Et donc, on a l'impression que nous, on fait quelque chose, mais qui n'a plus beaucoup de sens.
Le président du Syndicat national des écoles avec Théo Manval. Cela fait maintenant 5 jours que la phase 2 du déconfinement a débuté avec la réouverture des cafés, bars et restaurants entièrement en zone verte, seulement les terrasses pour l'Île-de-France.
Pourtant, certains établissements, Sophie, n'ont pas rouvert leurs portes. Trop chères, trop compliquées, pas rentables. Au fond, Johanna Chabas est allée à la rencontre de certains d'entre eux. Il nous l'explique dans le 5e arrondissement de Paris.
60% de notre clientèle, c'est des touristes. Pour l'instant, il n'y a pas, donc ça ne va même pas le coup de réouvrir. On ne sait pas la perte qu'on va avoir.
Antonio a certes une belle terrasse à quelques mètres du Panthéon. Mais pour lui, pas question de rouvrir sa pizzeria. Cela coûterait beaucoup trop cher.
Alors déjà, pour lancer le restaurant derrière, pour commencer tout à zéro, il faut au moins 10 000 euros pour acheter toute la marchandise et remettre tout en place. Là, j'ai 10 salariés qui travaillent pour moi. Tout le monde au chômage partiel. Si on ouvre, c'est fini le chômage partiel. Il faut les payer. Je ne sais pas comment il faut faire.
Il fait partie des 40% des restaurants du quartier qui sont restés fermés depuis le déconfinement. D'autres ouvrent pour la vente à emporter mais refusent d'accueillir des clients car une terrasse est impossible. Les trottoirs sont étroits dans ce quartier historique. Songji ne pourrait installer que 2 tables devant son établissement.
Même s'il y a plusieurs passages, on va compter une dizaine de personnes. Donc ça sera 150-200 euros si j'ouvre la terrasse. C'est tout.
Pas rentable, selon lui. Il attend impatiemment la fin du mois pour savoir si les règles sanitaires s'assouplissent pour enfin retrouver sa salle et un rythme normal.
Johanna Chabas.
Ouvrir, mais sans obligation. Ouvrir plutôt aussi, c'est ce que demande dans une tribune une dizaine de grands chefs parisiens, notamment notre invité dans 10 minutes sur Europe 1, le chef François Gagnère.
Il est 19h06, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Wendy Bouchard.
Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon un cold case, une affaire judiciaire ancienne non élucidée. Sauf que dans cette histoire, Sophie, eh bien, les enquêteurs ont réussi à y mettre un point final.
19 ans après les faits, Wendy, un homme a pu être mis en examen pour le meurtre d'une femme de 55 ans dans la Drôme. Il a été confondu par son ADN retrouvé sur un mégot de cigarette découvert sur la scène du crime. Après toutes ces années, Chloé Triomphe, tout portait à croire que cette affaire serait un dossier classé.
Oui, en fait, l'enquête judiciaire avait été stoppée en 2010, faute de suspects identifiés. Mais l'an dernier, le pôle spécialisé de la gendarmerie nationale à Pontoise, là où sont regroupés tous les experts scientifiques, a repris le dossier en décidant de réexpertiser certains scellés. Et c'est un mégot de cigarette qui a parlé. Un profil génétique a pu en être extrait, celui d'un individu très défavorablement connu de la justice, un homme de 36 ans. Son ADN figurait aussi sur le t-shirt de la victime. Il a depuis été mis en examen et attend son procès en détention provisoire.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Impressionnante résolution d'enquête, 19 ans donc après les faits. Et avec nous en direct ce soir sur Europe 1, le général Jean-Philippe Lecouf. Bonsoir monsieur.
Bonsoir madame.
Vous êtes sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale. C'est vous qui chapeautez au fond ce type d'enquête qui souligne d'abord peut-être la ténacité de vos équipes.
Oui, absolument. Nos gendarmes, ils sont toujours très ténaces sur les affaires parce qu'il y a des victimes. Cette dame de 55 ans qu'on a retrouvée au bord de l'Isère, ça avait créé beaucoup d'émoi à l'époque dans la région. Et donc, on n'a jamais vraiment... Alors, ce dossier, il s'est arrêté un peu en 2010 parce qu'on n'avait plus de pistes.
Mmh.
Et puis là, comme la prescription s'approchait en 2020, on a décidé de le faire relire par des gens qui ne le connaissaient pas pour revoir un petit peu s'il n'y avait pas des choses nouvelles qu'on pouvait faire comme on le fait dans pas mal de ces dossiers-là. On les reprend là 10 ans après.
Et ce sont ces personnes qui se sont dit, Général Lecouf, qui se sont dit, bien, nous avons peut-être des pièces à conviction que la science peut mieux expertiser aujourd'hui.
Absolument, parce qu'il y avait des analyses qui dataient de l'époque des faits, donc oui. En 2001, 2002, 2003, et puis d'autres de 2009. Et bon, aujourd'hui, en 2020, les techniques ont évolué, il y a des choses qu'on peut faire mieux. Il y a aussi des pistes qu'on a pu recreuser. Et en fait, en octobre 2019, on s'est réunis avec les magistrats et avec le procureur de Valence.
Oui.
Et on s'est dit que ça valait le coup de tenter de nouveau la résolution de cette affaire, et puis bien nous en a pris, et bien on a pris pour la famille de la pauvre victime.
Ça veut dire que quand vous saisissez de ces enquêtes, quand vous rouvrez les affaires closes comme celle-ci, c'est que vous êtes quasiment certain de pouvoir les résoudre ?
Non, ça ne veut pas dire qu'on est certain, ça veut dire qu'on se dit qu'il y a encore une petite chance et qu'on veut jouer cette chance. On est malheureusement, on aimerait être certain à chaque fois de les rouvrir, mais des fois on travaille sans espoir, je dirais, ou avec de l'espoir, on en a toujours, pardon, mais en revanche, sans certitude qu'on va aller au bout. Cette fois-ci, le travail a payé, ce nouveau regard a payé, l'évolution des techniques a payé, et on a pu, même si je dois respecter évidemment la présomption d'innocence, puisque cette personne, elle est actuellement... devant un magistrat, un juge d'instruction. Elle a été mise en examen, mais elle n'est pas encore jugée. Mais on a des éléments quand même très solides à ce stade du dossier.
Et ça souligne l'expertise aussi de ce plateau d'investigation Cold Case, de ce pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Pontoise, dont vous dirigez les enquêtes générales. Jean-Philippe Lecouf, merci de vos précisions sur Europe 1 ce soir.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et on prend à présent la direction de l'Espagne qui, après le confinement, tente de sauver sa saison touristique. La péninsule rouvrira ses frontières le 1er juillet. Un soulagement pour Cambrils, station balnéaire de 33 000 habitants au sud de Barcelone. Un lieu très prisé des vacanciers français. Henri de la Garrigue.
Cambrils, ses 9 km de plage et son arrière-pays, s'est lancé dans une course contre la montre. Tout doit être prêt pour accueillir les premiers touristes étrangers. Et d'ici la fin du mois, un tracteur nettoie le sable en bord de mer pendant que Llorens Blanco monte la terrasse de son restaurant de plage. Cet été, il aura moins de tables pour respecter les distances de sécurité.
Sur cette terrasse, avant, on avait entre 30 et 40 tables. Cette année, on en mettra 12 au maximum. Je pense qu'il ne faut pas saturer les plages.
Et les accès à la plage seront contrôlés. Malgré les hésitations et la cacophonie du gouvernement espagnol, les frontières ouvriront bien le 1er juillet. À Cambrils, c'est un immense soulagement. Le tourisme représente la moitié de l'économie de la ville. Gustavo Cavedo est le directeur de l'hôtel Solport.
Bien sûr, on est très content, on est très content. C'est des très bonnes nouvelles. On va sauver la saison. On attend beaucoup de clients français.
Particulièrement touchés par l'épidémie, l'Espagne mettra cet été l'accent sur la sécurité sanitaire. Anaïs Veciana, elle loue des logements touristiques.
Nous allons surtout garantir le nettoyage et la désinfection des appartements. Les clients peuvent venir en toute sécurité. On sera très content de les recevoir.
Et puisque le trafic aérien ne retrouvera pas de sitôt son niveau d'avant la crise, à Cambrils, on mise sur les vacanciers du sud de la France, ceux qui se déplacent en voiture. Cambrils, Henri de la Guérie, Europe 1.
Au cœur du journal de Sophie Tussaud qu'on retrouve pour vous informer à 19h30 sur Europe 1. Merci Sophie.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à ArcadB, produit de fabrication française. ArcadB vous présente la météo.
Et la question du moment, Valérie Darmon, s'était habituée au soleil. Le temps s'améliore-t-il cette semaine, Valérie ?
Eh bien, pas vraiment. Demain encore, sur la plupart des régions, les passages nuageux ne laisseront que peu de place aux éclaircies. Il pleuvra du sud-ouest au massif central et aux frontières de l'est. La limite pluie-neige se situera aux alentours de 2100 mètres. C'est du nord de la Bretagne à la région parisienne et à la frontière belge que le risque d'averse est le plus faible et les éclaircies les plus belles. Seul le pourtour méditerranéen et l'ouest de la Corse profitent d'un temps véritablement ensoleillé. Le vent reste fort, hein. Mistral et Tramontane soufflent aux alentours de 80 km/h. Les minimales oscilleront entre 6 et 11 en général, 12 à 17 près de la Méditerranée, les maximales 16 à 21 sur la majeure partie de la France, 20 à 25 près de la Grande Bleue.
La météo, signée Valérie Darmon. 18h13, 19h13, Wendy Bouchard.
Ça passe vite. Hein.
Dans un instant, on va s'intéresser à ces chefs parisiens qui demandent la réouverture des restaurants à Paris avant le 22 juin.
Oui, ces chefs notamment qui n'ont pas de terrasse pour travailler. Ils s'adressent au Premier ministre et parmi les signataires, notre invité ce soir, François Gagnère. À tout de suite.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard, la suite du Grand Journal du soir et avec votre invité Wendy. Vous revenez sur la situation délicate des restaurateurs d'Île-de-France.
Absolument, dans la région, contrairement au reste de la France en vert, eh bien seules les terrasses des restaurants et des bars ont pu rouvrir, contexte sanitaire oblige. Bonsoir François Gagnère.
Bonsoir Wendy.
Vous êtes chef du restaurant Anicia à Paris, c'est rue du Cherche Midi. Une réouverture progressive qui s'entend pour des raisons sanitaires, on en parlera. Est-ce d'abord une épreuve de trop pour les établissements parisiens qui n'ont pas de terrasse aujourd'hui?
Oui, effectivement, ça nous complique un peu la vie. Et je dirais qu'on ait une terrasse plus ou moins grande ou pas du tout. Enfin, évidemment, pas du tout, c'est un vrai problème parce que c'est pas la peine d'ouvrir, hein, ils sont fermés. Mmh. Pour ceux comme nous qui avons 5-6 tables qu'on peut mettre à l'extérieur, même si la mairie de Paris nous accorde un emplacement, il faut se battre chaque matin pour essayer de gagner cette petite place
qui nous
permettra
ouais.
de mettre quelques tables.
Ouais.
Grignoter, voilà, c'est ça.
Ouais.
C'est très compliqué. C'est très compliqué. Le temps n'est pas avec tout, même si c'est un élément naturel, ça ne nous aide pas parce que cette semaine a été catastrophique en termes de chiffre d'affaires.
Bien sûr.
Avec le temps.
Ouais.
Donc, ce n'est pas facile.
Bah, on ne peut pas travailler dans ces conditions, on vous comprend bien. Fermer, ouvrir, demander aux clients de partir quand il pleut, enfin, ça, c'est de l'ordre du casse-tête quand vous essayez de faire l'effort vous-même.
Oui, parce que on travaille en partie, vous le savez, dans les restaurants sur réservation et en même temps sur passage,
oui.
Sur des gens qui viennent s'en réserver. Donc, c'est très difficile, même si on essaye de zioter la météo de Valérie Darmon et de dire, bon, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir du beau temps? Et puis, un orage, c'est très local. C'est ce qui s'est passé en début de semaine. Et là, c'était catastrophique. C'est-à-dire que les gens étaient attablés et là, on avait du monde. Beaucoup de monde et on a dû rapatrier tout le monde à l'intérieur et on n'avait pas le choix.
Ouais, c'est beaucoup vous demander après 2 mois et demi de confinement pour un secteur si fragile. Voilà pourquoi dans une tribune publiée dans le Figaro avec d'autres grands chefs, Hélène Darroze, Yves Cantebord, Guy Savoy, Alain Passard notamment, vous demandez la réouverture urgente des restaurants parisiens mais dans leur totalité. C'est un cri du cœur, c'est un cri de colère, c'est un cri d'angoisse, d'inquiétude, François Gagnère.
Je dirais que c'est plutôt un cri de bon sens aussi et évidemment d'inquiétude. On a passé, je dirais, presque le plus facile jusqu'à présent, c'est-à-dire cette période de confinement pur. Maintenant, on nous demande d'ouvrir à moitié ce qui n'est pas facile, surtout à Paris. Pourquoi ? Parce qu'à Paris, on arrive sur une période creuse. Si je considère mon établissement avec 3 clientèles différentes, un tiers de clientèle business, un tiers de clientèle touristique et un tiers de clientèle de quartier d'habitués. La clientèle business, on lui conseille de rester en télétravail et puis le mois d'août, c'est fini. Donc celle-ci, on n'en parle plus. La clientèle touristique, surtout long courrier, les hôtels étant fermés et cette clientèle ne viendra pas avant quelques mois. Donc on l'oublie également. Et la dernière clientèle, la clientèle de quartier sur lequel on doit... qu'on aime beaucoup et qui est très importante pour nous, mais celle-ci, qui a été confinée pendant 2 mois, va souhaiter, pendant les vacances d'été, une seule chose, c'est de partir à la campagne, voir la famille, et puis voilà. Donc
et oui, ça veut dire qu'il vous reste un mois et demi vraiment pour gérer l'urgence et pour essayer de vous redresser un petit peu, et donc vous demandez une réouverture urgente. On a cette date en tête du 22 juin, qui est une date officieuse, on n'a pas encore de date officielle d'ailleurs sur la réouverture totale en Île-de-France des restaurants.
Oui, on espère en tout cas que ça sera la date limite. Mmh. Bien sûr, je pense que c'est pas la peine d'espérer plus tôt. Pourtant, on est capable de mettre toutes les mesures en place, que ce soit en termes d'hygiène, de séparation de table, etc. Mmh. On a tout ça en tête. On a nos syndicats qui nous ont bien expliqué exactement tout le protocole à suivre. Et déjà dans nos métiers, l'hygiène est très importante. Donc, c'est pas un souci pour nous à ce niveau-là. On attend que nos clients qui eux aussi sont... Enfin, il y a une belle retrouvaille qui se passe entre nous et eux. C'est beaucoup d'émotions.
Mais j'imagine qu'il y a quelque chose qui vous chagrine aussi beaucoup, François Gagnère, pour sillonner aussi Paris, pour voir les gens qui s'agglutinent aujourd'hui, pardon du terme, mais c'est un peu ça quand même en terrasse, avec pas forcément ce respect des 1 mètre de sécurité sanitaire entre eux. Et vous qui êtes prêts vraiment à les accueillir à l'intérieur de vos établissements avec justement un dispositif très très bien cadré. Donc il y a ce deux poids deux mesures qui n'est plus trop lisible aujourd'hui.
Oui, je suis assez d'accord. Vous voyez, là, je suis en train de faire une prestation à l'extérieur. J'ai dû traverser tout Paris dans des quartiers très populaires et je m'aperçois que les gens sont vraiment agglutinés, serrés sur les terrasses. Et je pense à ça. J'ai dit oui, c'est fait effectivement. Nous, on nous demande vraiment d'assurer le protocole, et ce qui est compréhensible, hein, on l'accepte complètement, mais tout le monde ne joue pas le jeu.
Oui, je voudrais vous faire réagir quand même à ces restaurateurs qu'on a entendus dans le journal, dans le 5e arrondissement de Paris, qui disent, bon, nous ouvrir dans ces conditions-là, que vous venez de décrire, c'est pas possible pour nous, c'est un manque à gagner, c'est trop difficile à gérer. Quand vous demandez une ouverture urgente au Premier ministre, ce n'est pas une obligation d'ouvrir. On vous suit aussi là-dessus, François Gagnère ?
Disons que pour moi, ce qui est important, c'est de jouer sur les trois points. C'est-à-dire que on veut contribuer, ça c'est important. On n'a jamais été des professions qui vivent avec des subventions. C'est pas notre. Voilà. Nous, on veut travailler, absolument. On veut contribuer à l'économie du pays. Donc, on veut bien relancer l'économie, mais on sait que ça ne va pas arriver du jour au lendemain et qu'il va falloir plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années pour qu'on revienne sur un chiffre d'affaires normal. Donc, ce point-là, on a envie de réouvrir pour la plupart. Mais effectivement, on a un autre problème. Je parle pour mon établissement. Nous avons 8, nous sommes 8 en tout employés, dont je fais partie. Et si vous voulez, j'ai besoin de toute mon équipe. J'ai besoin de tout ce monde-là, même pour faire 10-15 couverts. Pourquoi ? Ben parce qu'on peut faire plus sans savoir. D'un coup, on peut avoir du passage. Donc, il y a des choses qu'on ne domine pas. Et à la fois, par sécurité, c'est pour moi, ça veut dire 2 personnes en salle. C'est le minimum pour assurer une sécurité, pour justement désinfecter chaque passage de client. Et donc, j'ai besoin de toute l'équipe. Et donc, pas de chômage partiel. Pas de tout ça, donc pas d'aide. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Et puis, évidemment, la troisième chose, c'est aussi de faire vivre nos petits producteurs, nos éleveurs, parce qu'eux dépendent de nous aussi. Donc, c'est important.
Oui, c'est cette chaîne aussi de culture et de valeurs que vous proposez aussi avec votre restaurant Lanicia, parce que vous avez participé pendant la crise à l'opération Les Chefs avec les soignants. Vous leur avez préparé des repas. Aujourd'hui, vous avez donc ces petits guéridons en terrasse que du cherche midi. La possibilité aussi de livraison de commandes qu'on peut emporter et déguster à la maison.
Oui, bien sûr. Démarrer ça dans cette période de pré-confinement où on avait l'autorisation de sortir. Oui. On l'a pas fait avant nous, mais on l'a démarré avec notre épicerie fine. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Non, je suis pas sûr que tous les chefs s'en sortent bien avec ça. Malgré tout, ça nous a permis de rester en lien avec nos clients. De remettre le contact en place, mais très clairement pour nous, ça n'a pas été une opération gagnante sur le plan chiffre d'affaires.
Non, c'était pour garder le lien justement. Bah, tenez-nous au courant, François Gagnère, avec les autres chefs parisiens justement,
et
l'évolution des choses.
Une start-up qui est super, qui s'appelle TikTok et qui travaille justement aussi dans ces valeurs-là de respecter des bistrots qui font des produits, qui travaillent des produits bruts. Donc c'est important.
Bah, merci. Voilà. Merci de le souligner aussi,
merci
François
beaucoup.
Gagnère. Chef du restaurant Anicia à Paris, rue du Cherche Midi, vous qui avez quitté le Puy-en-Velay il y a quelques années maintenant avec votre magnifique restaurant étoilé là-bas aussi. Merci François Gagnère et bon courage à vous.
Merci
et à
beaucoup
vos équipes.
Wendy. Bonne soirée.
Europe.
Au revoir.
Europe 1, 19h24, la suite du grand journal du soir, c'est Planète Sauvage. On n'oublie pas l'actu des animaux.
Wendy. Oui, et le lancement demain de la Semaine nationale de l'identification. Pucez vos animaux pour mieux les protéger. On en parle.
Et voici à présent Planète Sauvage dans ce grand journal du soir sur Europe 1. Wendy Bouchard, c'est l'actualité des animaux.
Absolument, et à la une, une trentaine de sénateurs demandent la fin des animaux sauvages dans les cirques. Un courrier a été envoyé à Elisabeth Borne, ministre de l'Environnement, par l'initiateur de ce projet, le sénateur Arnaud Bazin. Il s'agit, écrit-il, d'une capacité à être humain. La Chine décide de mieux protéger le pangolin en classant ce petit mammifère à écailles, soupçonné d'avoir transmis le coronavirus, dans la catégorie des animaux de première classe menacés d'extinction, comme le panda géant. Et puis la BD Brigitte Bardot sort aux éditions Dupuis, écrite par Bernard Suissen. Elle y raconte la femme libre, réactionnaire assumée, révolutionnaire, qui a mis sa notoriété au service des animaux.
L'image la plus symbolique de moi, c'est celle avec le bébé phoque. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'unique et celle qui, à mon avis, restera de moi. Voilà.
Brigitte Bardot avec nous sur Europe 1.
Nous sommes le dimanche 7 juin et demain débute la semaine nationale de l'identification.
Une campagne lancée par le ministère de l'Agriculture et par la société ICAD, dont on reçoit le président ce soir, le docteur vétérinaire Pierre Buisson. Bonsoir à vous. Est-ce que vous êtes avec nous, docteur Pierre Buisson? Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. On pouvait tatouer les chats et les chiens à l'époque, on peut encore aujourd'hui, mais on les puce davantage pour les inscrire à un registre officiel qui permet de les identifier en cas de vol ou de perte. C'est d'ailleurs une obligation légale aujourd'hui, docteur.
Oui, bien sûr, c'est une obligation qui, sans rentrer dans le calendrier, mais existe depuis plus d'une vingtaine d'années pour les chiens, une bonne dizaine d'années pour les chats.
Oui.
Mais qui est malheureusement en France, et en particulier pour les chats, est encore relativement sous-exécuté, sous-réalisé, ce qui fait qu'on a encore malheureusement plus de 60% des chats dont on pense qu'ils ne sont pas identifiés.
Et pourtant, c'est une identification obligatoire, par exemple, pour voyager à l'étranger avec son animal, pour voyager en avion tout court avec son chat ou son chien.
Oui, bien sûr, il y a un certain nombre d'avantages ou de possibilités qui sont offertes par l'identification, mais c'est d'abord la base, disons, de l'affirmation du lien que peuvent avoir les propriétaires avec leurs animaux, et on voit bien que la période actuelle a resserré ces liens, que la place des animaux de compagnie dans la famille n'avait fait qu'augmenter ces dernières années, et que les dernières semaines ont marqué encore plus. On a vu au travers de l'activité qu'on peut avoir, nous, dans le fichier ICAD, le fichier des carnivores domestiques, que le fait de trouver, d'avoir perdu son chat était quelque chose qui avait pris énormément d'importance. Et donc, pour pouvoir retrouver son animal, il faut d'abord qu'il soit identifié. Donc, c'est vraiment la base, avant même d'envisager de voyager, c'est déjà la base que d'affirmer qu'on a un lien avec cet animal.
Complètement. Elle officialise ce lien, cette identification. Elle donne une identité, elle vous rattache aussi à cet animal. Voilà pourquoi cette campagne est soutenue par le ministère de l'Agriculture aujourd'hui. Ça dure une semaine, une campagne de sensibilisation.
Exactement, avec l'idée de pousser vraiment les gens à reconsidérer pour la partie des détenteurs d'animaux qui n'auraient pas fait identifier leur animal, que c'était quelque chose qui était absolument d'une grande simplicité, totalement indolore et fait de façon définitive pour l'animal. On est un des rares pays au monde où l'inscription dans le fichier est quelque chose qui va être valable toute la vie de l'animal et permettre, à condition de mettre à jour ces informations, permettre tout au long de la vie de l'animal de gérer ses événements sanitaires, justement sa possibilité de voyager, sa possibilité d'être retrouver, donc c'est un très gros avantage.
Merci.
Et pour les chats, nous avons choisi aussi d'y associer l'idée que la stérilisation est quelque chose qui est indispensable à éviter la surpopulation, la souffrance et les abandons.
Et pour ces deux actes-là, si vous êtes démunis, sachez qu'un certain nombre d'associations de protection des animaux peuvent vous aider justement financièrement à identifier et à stériliser votre animal. Seuls 2 chats sur 3 sont identifiés aujourd'hui en France et 80% des chiens ont une puce électronique. Le docteur vétérinaire Pierre Buisson était avec nous pour la société ICAD et pour nous parler de cette campagne de sensibilisation qui commence demain à relayer, donc, si vous êtes amis des bêtes. Merci beaucoup.
C'était Planète Sauvage, toute l'actualité des animaux, comme chaque dimanche. 19h30, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Nous sommes à l'heure pour le rappel des titres de Sophie Tussaud.
C'est le plus faible bilan à l'hôpital depuis la mi-mars. 13 décès de plus ont été enregistrés en 24 heures et le nombre de personnes en réanimation continue de baisser. Le président du conseil scientifique plaide pour des règles sanitaires moins strictes à l'école, notamment pour les repas, les récréations ou le sport. Jean-François Delfraissy estime qu'il faudrait alléger le protocole d'ici la fin juin. Étape importante et délicate à partir de demain, le démontage de l'échafaudage de Notre-Dame de Paris, déformé par la chaleur de l'incendie. Il est constitué de dizaines de milliers de pièces à plus de 40 mètres de haut. Christian Jacob apporte son soutien aux forces de sécurité. Le président des Républicains affirme que les violences policières et une police raciste n'existent pas en France. Déclaration sur Europe 1. Aux États-Unis, après plus d'une semaine d'émeutes à la suite de la mort de George Floyd, la situation est désormais sous contrôle. C'est du moins ce qu'estime Donald Trump, qui ordonne le retrait de la garde nationale de Washington. Et puis jeter un masque par terre sur la voie publique coûtera bientôt très cher, 135 euros d'amende. Idem pour un mégot de cigarette contre 68 euros actuellement. Un projet de décret sera présenté en ce sens mi-juin.
Merci Sophie Tussaud. Et à suivre, le grand débrief de l'actu avec vos invités, Wendy Bouchard.
Les députés Barbara Pompili, Nicolas Dupont-Aignan et le spécialiste en communication politique Philippe Moreau-Chevrolet. Merci, à tout de suite.
Europe 1.
Jusqu'à 20h, c'est le grand journal du soir. Avec vous, Wendy Bouchard, c'est l'heure maintenant du grand débrief de l'actu.
Jusqu'à 20h, j'accueille ce soir la députée de la Somme, Barbara Pompili, l'une des initiatrices du courant En Commun créé au sein de La République En Marche. Le président de Debout la France, également député, Nicolas Dupont-Aignan, et Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication politique, président de MCBG Conseil. Bonsoir à tous les trois. Et merci de nous rejoindre pour commenter cette actualité. Bonsoir. Et revenir sur ce dilemme à la tête de l'État. Faut-il accélérer le déconfinement, redonner plus de liberté aux Français ou jouer la carte de la prudence? Que privilégier à ce stade, au fond, l'économie ou la santé? Au lendemain de nombreuses manifestations contre les violences dans la police, comment s'emparer de ce débat pour ne pas passer à côté? Et puis le débat des municipales, justement, qui s'intéresse encore au programme des candidats en campagne? On fera le point avec vous. Et nous voici à un nouveau stade de l'épidémie. Ce virus contrôlé, 13 morts en 24 heures, on l'apprend à l'instant, le plus faible bilan depuis mi-mars à l'hôpital en France. Mais un virus qui continue de circuler, 150 clusters signalés depuis le début de déconfinement, mais pas de diffusion autour de ces foyers. Alors on se demande quelle politique adapter à ces résultats, car manifestement, il y a débat au sommet de l'État entre ceux qui veulent une accélération du déconfinement et Matignon qui plaide la prudence. Il n'y a pas de vérité sur le sujet aujourd'hui, Barbara Pompili. Ou avez-vous, vous, une hypothèse et un chemin à suivre?
Oh, je crois que ceux qui détiendraient une vérité n'ont qu'à la donner, mais ils seraient démentis par les faits assez rapidement. Non, je crois qu'il faut qu'on reste prudent, que tout le monde soit responsable. Je crois que c'est l'affaire de tous. Quand je vois que le déconfinement s'accompagne dans certains endroits d'un total abandon des mesures barrières, ça doit tous nous interpeller. Il faut qu'on fasse attention, qu'on soit raisonnable, parce que la liberté, c'est la responsabilité également. Après, il faut quand même qu'on réfléchisse sur certaines procédures qui ont été mises en place, notamment dans les écoles, où on voit que là, on arrive au bout de l'exercice et il va certainement falloir les revoir.
Vous avez peut-être entendu tous les trois ce que disait François Gagnère à l'instant, le restaurateur, ce deux poids deux mesures, ce monde en terrasse, cette absence de clients à l'intérieur des établissements qui pourraient faire le protocole sanitaire dans sa manière la plus exemplaire. Nicolas Dupont-Aignan, il y a parfois ce paradoxe ou ce deux poids deux mesures qui n'est pas simple à comprendre.
C'est pas facile. Moi, je pense qu'en vérité, plus les Français garderont les gestes barrières, plus on pourra accélérer le déconfinement. Or, paradoxalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le déconfinement fait croire à beaucoup que c'est fini.
Qu'on abandonne tout.
Et c'est là où c'est assez délicat, parce que ça repose sur la responsabilité individuelle des Français. On peut pas, pour le coup, j'ai été très critique, et vous le savez, sur le gouvernement, sur l'affaire des masques, des tests, de la chloroquine, mais sur le déconfinement, on peut pas mettre un policier derrière chaque Français. Il y a le bon sens. Le bon sens, il repose sur la responsabilité des Français. Et moi, je crois qu'on pourrait aller plus loin dans le déconfinement si, et uniquement si, les gestes barrières sont respectés. Et c'est là où il y a un immense travail d'information. J'ajoute, il y a un deuxième point qui me soucie, c'est les tests. Je crois que le gouvernement aurait intérêt à généraliser davantage les tests, c'est-à-dire à faire une campagne pour tester même des gens qui n'ont pas de symptômes. Car les pays qui ont multiplié les tests, notamment de personnes qu'on dit asymptomatiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de symptômes, permettent de trouver parfois des gens qui sont positifs et à ce moment-là de prévenir. Donc la généralisation des tests, malgré le fait que le virus semble disparaître, me paraît être une obligation absolue pour qu'on puisse passer l'été et surtout éviter un retour à l'automne.
Donc, je vous suis Barbara Pompili. Peut-être on allège déjà un petit peu le protocole sanitaire à l'école, mais la responsabilité individuelle avant tout, Nicolas Dupont-Aignan, Barbara Pompili, et cette libre parole du professeur Delfrécy qu'on a parfois du mal à suivre et que vous analysez aussi régulièrement, Philippe Moreau-Chevrolet. Laissons les gens vivre. Voilà la formule qui revient depuis cette interview au JDD ce matin.
Oui, alors c'est un paradoxe, hein, étant donné que le professeur Delfrécy a été l'avocat le plus fort, hein, pour tout ce qui concernait le confinement et les mesures restrictives. Donc il a fait un virage à 180 degrés. Il y a beaucoup d'autoprotection dans son message. C'est-à-dire, on sent quand même qu'il cherche d'abord à se retirer. Hein. Il explique que le comité scientifique a une vie, mais également une mort, et qu'il va falloir probablement qu'il arrête ses activités. Et au fond, il plaide pour un retour à la normale en expliquant que toutes les décisions ont bien été prises par le politique et pas par le scientifique. Donc au fond, quelque part, on a le sentiment que le pic de la crise est passé, donc les médecins se retirent. Il y a aussi probablement une volonté de se dire que l'impact du confinement va être extrêmement élevé en termes économiques et que probablement, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités, mais pas plus que ses responsabilités. Donc c'est un peu un discours un peu particulier parce qu'il est aussi très politique, hein, son discours d'aujourd'hui. Mmh. Et moi, ce qui me manque, à titre personnel, étant spécialiste de communication, c'est une grande campagne publique pour apprendre aux gens à vraiment utiliser un masque, oui, qu'ils doivent le faire, que c'est pas optionnel. Apprendre les gestes barrières et les réapprendre, c'est pas du tout évident. On observe dans la rue chacun, comme l'a dit Barbara Pompili, que tout le monde ne sait même pas forcément mettre un masque. Il y a des gens qui le portent sous le nez, qui le portent sous la gorge, etc. Et que tout le monde n'a pas conscience de l'importance du fait de porter un masque. Donc je pense qu'il y a besoin d'une grande campagne publique, de quelque chose d'un peu offensif et fort.
Nicolas Dupont-Aignan et Barbara Pompili sur cette doctrine peut-être sanitaire d'État.
Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire monsieur. J'ajoute un dernier point. J'ai beaucoup de médecins qui me disent aujourd'hui que lorsqu'ils font les scanners, les radios, il y a beaucoup de gens qui ont eu le Covid et qui ont des séquelles. Mmh. Et donc, il ne faut pas banaliser ce virus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il a disparu, a priori, il n'a pas d'ailleurs complètement disparu, il y a 150 clusters en France, c'est quand même pas négligeable, ce n'est pas un virus comme les autres. Et c'est pourquoi je maintiens qu'il est très important qu'il y ait une campagne, et monsieur a tout à fait raison, pour apprendre les gestes barrières. On peut vivre avec les gestes barrières. Je répète toujours la même chose depuis le début de la crise. À Hong Kong, il n'y a pas eu de confinement, à l'exception des écoles qui ont été fermées. Mais les gens ont vécu avec un masque, ont été très prudents, et il y a eu 5 morts. C'est-à-dire 800 fois moins qu'en France, au prorata de la population. Donc, encore une fois... Oui. Il ne faut pas confondre déconfinement qui doit s'accélérer parce qu'il faut que la vie reprenne.
Et relâchement.
Mmh. Et c'est là la difficulté. Et ça exige, je crois, beaucoup d'informations, dédramatiser. Ça exige peut-être ce qu'on n'a pas fait depuis le départ, de faire confiance aux Français, de leur donner les éléments, de ne pas leur raconter n'importe quoi selon les circonstances. Et cela exige aussi de tester et de soigner. À cet égard, j'aimerais que le gouvernement revienne sur l'interdiction de la prescription de chloroquine qu'il a faite suite à l'étude Lancet, qui s'est avérée être une étude foireuse.
Barbara Pompili.
Non, on ne peut pas dire qu'on a dit n'importe quoi. Je crois que le gouvernement a fait ce qu'il a pu avec les informations qu'il avait.
Oui. Il n'y a pas eu de doctrine claire, en tout cas, sur le port du masque, par exemple, parce que c'est le sujet qu'on
avait dit. Non, et on sait pourquoi.
Pourquoi ?
Maintenant, sur le port du masque, il faut le mettre autant que faire se peut. Sur les tests, on peut aussi réfléchir à la manière dont on pourrait les utiliser. C'est vrai que quand on va visiter des personnes fragiles, par exemple, ça pourrait permettre de resocialiser plus facilement. Mais sur les écoles, là, on le voit bien sur le terrain. On a un besoin que les enfants reviennent à l'école, pas forcément pour terminer le programme. Je crois que là, tout le monde a bien compris que ça ne pourrait pas marcher. Mais au moins pour se resocialiser, pour retrouver des rythmes, pour réapprendre. Si les enfants ne reviennent qu'en septembre, ils auront fait 6 mois sans école. C'est énorme. Et on voit sur le terrain, quand on discute avec les professionnels, avec les maires, avec les responsables, qu'il y a moyen de trouver des solutions si on réussit à faire sauter cette barrière des 4 mètres carrés qui empêche un vrai travail auprès des élèves, et puis y compris dans les lycées professionnels où on a des postes de travail entiers qui sont éliminés à cause de cette 4 mètres carrés. Revoyons ça
en essayant de respecter toujours le principe des gestes barrières qui peuvent être respectés malgré les 4 mètres carrés. Voilà une idée parmi d'autres,
oui.
Mais je crois maintenant qu'on doit revenir à la raison.
Caroline nous écrit sur le hashtag Europe 1, les Français sont quand même parfois insupportables. Pendant des semaines, ils ont hurlé qu'ils voulaient des masques. Maintenant qu'on leur demande de les mettre, ils font n'importe quoi. On parlait de l'amende pour les masques jetés d'ailleurs dans les rues. Il y a tout ça aussi à prendre en compte quand on est responsable politique et avec un peu la distance qui est la vôtre, Philippe Moreau-Chevrolet. Tout ça est complexe, hein. La responsabilité
individuelle est complexe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les Français ont compris que sur les masques, on leur avait menti. Donc, c'est la source de la colère, c'est ça. Et le masque est devenu, mais partout dans le monde, hein, un symbole politique. C'est-à-dire dans les pays où ça ne s'est pas bien passé, comme les États-Unis ou la France, pour ce qui est des masques, hein, je veux dire, sont devenus des symboles politiques. C'est-à-dire qu'on a décidé que, du côté de la population, c'était une preuve que l'État n'était pas totalement fiable.
Donc, on les porte, on les porte pas, on les balance.
Que l'État pouvait aussi vous laisser tomber.
Oui.
Donc, mais oui, le paradoxe, c'est qu'une fois qu'on les a, on ne va pas forcément les porter parce que c'est pas la même signification, si vous voulez. Mm-hmm. La première signification, elle est politique. On veut avoir des masques parce qu'on nous a menti et qu'on a le droit d'avoir des masques. C'est l'État qui doit nous les fournir. Et en France, on a vraiment ce sentiment que l'État doit nous protéger. Mais une fois qu'on les a, c'est autre chose. C'est un acte individuel, c'est plus un acte politique. C'est embêtant de porter un masque. Quand même, c'est pas pratique. Et là, on est différent. Mais c'est pas les mêmes Français, si vous voulez.
Que vous le portez sur votre profil Twitter. Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication politique. Nicolas Dupont-Aignan et Barbara Pompili.
Ça, c'est très important.
Sont avec nous ce soir. Mais oui, l'image, le principe de l'image.
Je vous fais remarquer, cher Wendy Bouchard.
Oui.
Je vous fais remarquer que quand je suis arrivé à l'Assemblée il y a pas longtemps, et Madame Pompili peut s'en rendre compte, on nous a distribué des masques à l'entrée.
Oui.
On était 3 à le mettre dans l'hémicycle.
Voilà, il y a aussi cette exemplarité
politique. Dans tous les parlements
politique.
Du monde, les députés mettent des masques, et même le président.
Mmh.
Et bien en France, on a des parlementaires qui m'ont ridiculisé parce que je portais le masque. Alors à quoi ça sert de donner des masques à l'entrée de l'Assemblée? Et comment voulez-vous que les Français portent un masque quand les députés refusent de le porter dans l'hémicycle?
Vous le portez vous-même, Barbara Pompili?
Non, attendez, on a des règles à l'Assemblée nationale qui sont qu'on doit porter le masque dans tous les endroits de circulation où on peut se croiser. L'hémicycle a été aménagé de sorte qu'il y ait des espaces entre les gens qui permettent d'éviter de porter le masque si on ne souhaite pas le porter. Mais bien évidemment, tous ceux qui souhaitent porter le masque, moi je ne leur jetterai absolument pas l'opprobre, bien au contraire.
Non, mais
on croise
des ministres qui marchent en ce moment à pied dans les rues qui ne portent pas de masque non plus. Après, voilà, c'est la vertu de l'exemple ou pas.
Non, mais au moins dans les lieux fermés, je n'en veux pas, Wendy Bouchard, je n'en veux pas un ministre dans la rue s'il n'y a personne d'en face. Je crois que c'est du bon sens, mais dans les lieux fermés, comment des députés ou le président de l'Assemblée, si vous regardez les images du Parlement italien, de tous les parlements, ils portent le masque. Et nous, on le distribue et on ne le porte pas. Et quand je l'ai porté, mais vraiment, on m'a regardé comme si j'étais un oiseau de mauvais augure. Donc c'est très paradoxal, c'est très français ça. Et il faut que, je pense, on change de... On doit montrer l'exemple.
De philosophie. Voilà, vous êtes au cœur de ce débrief de l'actu sur Europe 1. Et à la une encore, ces manifestations hier de Lille à Strasbourg, de Paris à Bordeaux contre les violences policières. 23 000 personnes mobilisées, dont cette jeune fille.
C'est pas normal que quand je me balade dans la rue avec des Noirs ou des Arabes, on se fasse arrêter, alors que les Blancs qui marchent à côté de nous, on leur demande pas leur papier d'identité. C'est pas normal qu'en 2020, ça se passe encore comme ça.
Et la fin de nos recevoirs ce matin de Christian Jacob, invité d'Europe 1 du Grand Rendez-vous, avec ses mots tranchés. Les violences policières, la police raciste en France, ça n'existe pas. Que fait-on, Barbara Pompili, de ces déclarations ?
Écoutez, je considère qu'il faut d'abord être humble sur ce sujet-là et pas excessif. La violence policière institutionnalisée, c'est vrai, elle n'existe pas. Maintenant, comme partout, comme dans toute la population française, il y a des personnes racistes chez les policiers, comme il y en a chez les boulangers et comme il y en a chez les dentistes. Donc, à un moment, il faut savoir que ces gestes-là, des paroles comme celles-là, doivent être absolument sanctionnés tout de suite, et parce que les policiers ont aussi un rôle d'exemple. Mais ils ont un métier très difficile, ils ont été très sollicités ces derniers mois, ces dernières années. Mmh. Tout ça, on doit en tenir compte.
Mais si on
veut recréer de la cohésion sociale, il faut qu'il y ait de la transparence.
Oui,
en fait.
Voilà, on laisse ça à l'IGPN ou on ouvre, comme le demande par exemple SOS Racisme, un vrai chantier, un vrai dossier sur le sujet avec les acteurs concernés.
Faut pas avoir peur d'en parler. Au contraire, on voit que c'est un sujet qui touche du monde. Les gens qui sont dans la rue, il y a des militants politiques dedans, mais il y a aussi beaucoup de personnes très sincères qui ressentent des problèmes et il faut les entendre. Donc moi, je suis pour qu'on en discute, je suis pour qu'on trouve des solutions. Le défenseur des droits faisait des propositions en fin de semaine sur, par exemple, le traçage des contrôles aux faciès, dont on sait que les contrôles aux faciès sont un problème pour un certain type de population qui sont plus visées que d'autres. On le sait. Donc maintenant, essayons de trouver des solutions ensemble parce que c'est aussi un sujet important de cohésion sociale dans notre pays. Donc ne faisons pas comme si ça n'existait pas. Mais maintenant, n'exagérons pas. La police, l'immense majorité de la police fait très bien son travail, heureusement. Mais les comportements racistes et les violences doivent absolument être sanctionnés.
Il a souligné leur travail justement à tous ces policiers menés au front comme ça lors de ce confinement, mais avant soumis à rude épreuve avec ces manifestations de gilets jaunes, notamment Christian Jacob ce matin. Nicolas Dupont-Aignan, vous vous retrouvez dans les propos du patron des Républicains?
Ce qu'a voulu dire sans doute Christian Jacob, il a raison, c'est que c'est peut-être la France qui est le seul pays où il y a une vingtaine de 18, je crois, policiers par jour agressés. C'est un des seuls pays où on ne peut plus rentrer dans certains quartiers, où les pompiers sont agressés. Alors c'est un peu facile de renverser les choses et de faire passer la police française pour la police américaine, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et c'est même honteux, l'amalgame est honteux, mais il y a pire. Moi, je suis très surpris d'entendre toujours violence policière raciste. Il y a des bavures, il y en a eu, et il y en aura toujours, et il faut éviter qu'il y en ait. Mais par exemple, ce qui m'a choqué dans ces manifestations, c'est que si la victime est noire, c'est une violence policière raciste. Il y a eu, au début janvier, un homme qui s'appelle Cédric Chouvia, qui est mort d'une interpellation. Il était blanc, on n'en parle jamais. Donc, je n'aime pas la manière dont, dans notre pays en ce moment, on est en train d'alimenter un conflit racial en singeant les États-Unis d'Amérique. Heureusement, on n'en est pas là. Notre pays, il y a des actes de racisme, bien sûr, qui sont injustifiables. Il y a parfois des bavures qui sont injustifiables. Mais de grâce, n'instituons pas dans notre pays une espèce de lutte raciale qui serait désastreuse parce que beaucoup de jeunes pourraient y croire. Et on est en train de mettre beaucoup d'huile sur le feu. Il ne s'agit pas de nier des choses qui existent et qui sont irrecevables, inacceptables. Mais de grâce, ne généralisons pas, parce qu'on a une des polices des plus respectueuses qui soient. Et moi, je comprends les syndicats de police. Vous savez, ils sont écœurés de ce qu'ils voient. Et il y a une sorte d'instrumentalisation d'événements outre-Atlantique pour légitimer certains abus dans nos cités.
Est-ce qu'il faut aujourd'hui que le Premier ministre, le Président s'empare de la question, Philippe Moreau-Chevrolet? Aujourd'hui, seul le ministre de l'Intérieur, le ministre concerné, Christophe Castaner, a défendu cette profession.
Alors oui, il y a un double problème sur cette question. Le premier problème, c'est qu'il y a on a nié du côté de l'exécutif, du gouvernement, la réalité de ce qui était des violences policières par rapport aux gilets jaunes. On a vu le débat enfler, on a vu se multiplier les prises de position, mais le gouvernement est resté complètement absent, sans réponse, et même avec une certaine négation qui rejoint un peu la position de Christian Jacob. On a longtemps nié la réalité. Et donc c'est un signal faible qui a traversé la crise du coronavirus et qu'on récupère aujourd'hui.
Oui, la négation décrédibilise ensuite l'action. Oui.
C'est difficile une fois que la polémique est montée, qu'on n'a visiblement pas réagi et que les cas de violence se sont multipliés, c'est difficile de réagir. Ensuite, Christophe Castaner, c'est le nœud du problème, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est faible, qui n'est pas un ministre fort, qui a été placé là et qui n'a pas vraiment su trouver sa place ou sa légitimité. On lui en a pas laissé le temps non plus. Il est arrivé en pleine émeute des gilets jaunes. Il a pas eu vraiment le temps de trouver ses marques. Du coup, ça va devoir se régler à l'étage au-dessus, soit celui du Premier ministre, soit l'Élysée. Mais l'Élysée a déjà dit qu'il souhaitait pas prendre position. Macron a déjà dit qu'il souhaitait pas prendre position. Donc oui, il y a un moment, il va falloir qu'il y ait une prise de position probablement de Matignon. Oui. Mais c'est dommage d'en arriver là sur un problème qui aurait pu être réglé bien avant et qui était un problème de maintien de l'ordre. Et ce qui est préoccupant, c'est le point commun entre la crise des gilets jaunes et le coronavirus, et d'une certaine façon les municipales, c'est qu'on a un gouvernement qui a du mal avec le terrain. et le contrôle du terrain, que ce soit un terrain du, dans le domaine de l'ordre public, le terrain politique. Donc il va falloir reconnecter quelque part avec, bah avec le terrain. Voilà.
C'est ça pour va ça être qu'un remaniement s'impose, Nicolas Dupont-Aignan, sur le sujet.
Oh, oui, moi j'ai toujours pensé que le ministre de l'Intérieur avait une énorme responsabilité dans les dérapages des Gilets jaunes. Il a laissé faire des casseurs pour les instrumentaliser indirectement, inconsciemment ou consciemment. Il y a même des syndicats de police qui s'en sont plaints pour décrédibiliser les Gilets jaunes. Il y a eu des actes très durs à l'égard des Gilets jaunes qui étaient des gens pacifistes au départ. On a laissé rentrer dans des manifs des black blocs très dangereux. Après, il y a deux poids, deux mesures permanents et les forces de police n'en peuvent plus des discours contradictoires. Donc je pense que vraiment, il est vital, parce qu'on ne peut pas vivre dans cet état de, d'accusation réciproque. Il est absolument vital, dans un pays déjà traversé par beaucoup de fractures, de réconcilier la jeunesse avec les forces de police. Ce qu'on voit actuellement, c'est beaucoup d'instrumentalisation de certaines forces d'extrême gauche contre la, les forces de police, pour les décrédibiliser vis-à-vis de la jeunesse, et c'est très malsain, ça peut très mal finir. Donc moi je pense qu'il y a besoin d'une parole présidentielle, il y a besoin d'un changement de ministre de l'Intérieur, et il y a besoin de règles claires. Et si on ne fait pas ça, notre pays peut déraper vers des guerres civiles très graves.
Barbara Pompili, pour terminer sur ce sujet.
Oui, on a besoin de retrouver...
Et sur l'autorité ou le manque d'autorité de Christophe Castaner aussi.
Bah alors, d'abord, quand on les violences policières, c'est une chose et elles doivent être dénoncées quand elles arrivent, ça, point évident. Sur les manifestations actuelles, elles sont en réaction aussi avec ce qui s'est passé aux États-Unis et on revient sur la mort d'Adama Traoré qui est tragiquement décédé en 2016. Donc c'était bien avant l'arrivée de Christophe Castaner. Donc je pense que les problèmes sont complexes et que sa gestion est extrêmement délicate. Le fait qu'il doive y avoir une parole sur le sujet, le président de la République a dit qu'il prendrait la parole d'ici un mois pour donner les grandes orientations de la fin du quinquennat. Il me semble évident qu'à cette occasion-là, il doit aussi parler de cohésion sociale et il doit aussi aborder ces questions. Avant, on a un gouvernement qui est au travail et qui doit, si besoin, s'exprimer. Mais je crois que le président de la République doit être là pour donner les grandes orientations et le Premier ministre doit être là pour l'application.
Affaire à suivre, Barbara Pompili.
C'est quand même grave que le président de la République n'ait pas un mot pour des forces de l'ordre qui se font agresser matin, midi et soir.
Eh bien, on attendra cette parole présidentielle si elle arrive. On la souhaitera pour vous, Nicolas Dupont-Aignan.
Oui, les manifestations étaient plutôt pacifiques.
Barbara Pompili et Philippe Moreau, Chevrolet, au cœur de ce grand débrief sur Europe 1. Merci à tous les trois. À bientôt. Bonne semaine à vous.
Merci à vous. 19h54, le mot de la fin pour Françoise Claus.
Les temps changent, arrive dans un instant.
L'air du temps, Wendy Bouchard, c'est la fin de ce grand journal du soir.
Les temps changent. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est une addition terrible pour le Real Madrid.
Beaucoup ont brûlé ou ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes.
We kids shouldn't have to do this.
On est assis sur une poudrière parce que les gens, ils ont peur.
Europe 1, l'air du temps. François Claus.
Qui écoute le monde changer et qui nous livre ses réflexions. Rebonsoir François.
Rebonsoir Wendy. Je ne sais pas si vous avez été comme moi frappé par ce brutal déconfinement de l'information. Voilà que depuis quelques jours, on s'intéresse au racisme en Amérique, on redécouvre que des salariés manifestent dans la rue en France pour défendre leur emploi, que le Costa Rica devient le premier pays d'Amérique latine et centrale à célébrer le mariage pour tous, que le Bayern de Munich a repris la tête du championnat d'Allemagne. Étrange sensation, comme si nous avions été en apnée pendant de trop longues semaines, comme si notre champ sémantique s'était réduit à cette étrange terminologie « confinement », comorbidité, taux de létalité, distanciation sociale, comme si aussi nous avions soudain repeint en rouge et vert les cartes de géographie de notre enfance. Oui, Wendy, il est bon de respirer à nouveau. Dès la fin du mois d'avril, déjà le sociologue Didier Lapéroni s'interrogeait, nous expliquant que, tel le monstre alien imaginé par Ridley Scott en 1979, le virus avait envahi nos corps, nos esprits, infectant non seulement les poumons, mais aussi les capacités cognitives ou intellectuelles, exacerbant nos émotions, positives ou négatives, accentuant le repli où nous pensions trouver un peu de sécurité. comme si le monde s'était arrêté de tourner. Avons-nous réalisé, ou même seulement su, qu'à quelques centaines de kilomètres de Paris, des immeubles se sont effondrés dans les rues d'une capitale européenne, Zagreb, victime d'un tremblement de terre d'une magnitude de 5,3 sur l'échelle de Richter, en pleine pandémie. C'était le 22 mars dernier, une éternité. Avons-nous su ou réalisé que 34 ans après, presque jour pour jour, les habitants de Kiev ont été contraints de s'enfermer chez eux lorsqu'un nuage radioactif en provenance de Tchernobyl, suscité par un gigantesque feu de forêt, assombrissait la ville et que le pays s'est retrouvé doublement confiné sous l'effet conjoint du Covid-19 et du césium 137, c'était le 18 avril dernier. Avons-nous su ou seulement réalisé que le dictateur nord-coréen a tiré deux têtes de missiles balistiques en direction du Japon pendant que le monde se confinait, c'était le 19 mars dernier. Non, nous ne l'avons ni su vraiment, ni réalisé totalement, infectés que nous étions, et l'avons tous été durant 3 mois, par ce Covid-19. Les débats politiques n'étaient plus droite-gauche, c'était raoultophile contre raoultophobe. Non, ce n'était plus la hausse ou la baisse des températures que l'on attendait à l'orée d'un JT, mais bel et bien la hausse ou non des hospitalisations en réa. Non, ce n'était pas le 4-3-3 de Didier Deschamps qui nous enflammait, mais les 1m50 ou 1m60 de distanciation indispensable pour garantir non pas l'équilibre d'une équipe, mais d'un corpus social. Ce virus nous a rendus fous, clamait ce matin le philosophe Bernard-Henri Lévy sur Europe 1 avec Patrick Cohen, comme si nous avions été saisis d'un égarement collectif, tous emportés, victimes de l'alien. Des scientifiques qui investissent les plateaux de télévision, des journalistes devenant scientifiques, une opinion publique devenue virologue, des politiques se muant en infectiologues. Dans le journal du dimanche ce matin, le professeur Delfraissy, président du comité scientifique, garant du confinement le plus strict durant 3 mois, lance soudain ce cri, comme s'il craquait à son tour, « Laissez donc les gens vivre ». Oui, vivre avec un peu de distance, je n'ai pas dit distanciation, vivre aussi avec un peu de sens, à commencer par celui de l'information.
Merci, excellent François Claus. Oh oui. À très bientôt sur Europe 1 Chronique.
À dimanche prochain,
et à réécouter
en podcast. Allons-y.
Merci beaucoup, Marlène Duret qui m'accompagne pour ce 18-20.
Merci, Wendy.
Naïma Bencheman qui programme avec moi cette émission. Kevin Oustier à la réalisation. Monsieur Fabien Lecoeuvre pour ses chansons qui nous restent dans la tête chaque week-end. Portez-vous bien, passez une belle semaine. L'info revient dès demain, 5h du matin. À 18-20, c'est Nathalie Lévy. Je vous dis à samedi prochain.
C'était Wendy Bouchard.
Et Lionel Rossoir.
Il est 20h01.